Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, c'est l'épisode 54 que nous enregistrons aujourd'hui le jeudi 15 juin 2017. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler de la tech, de ses usages, des petites nouveautés et notamment tout un programme assez complet puisque comme tous les ans on va vous relayer un petit peu ce qui s'est passé dans la WWDC d'Apple. On va vous réexpliquer ce que c'est en quelques secondes et vous le détailler bien entendu si vous vouliez un récap. Et puis c'est la belle période de l'E3, donc là aussi on va pouvoir vous détailler quelques éléments qui nous ont marqués et puis évidemment faire le tour des petites news incontournables du moment, de quoi vous mettre à niveau si vous aviez besoin de vous mettre à niveau sur l'univers de la tech. Et pour m'entourer ce soir, j'ai la joie et l'immense plaisir de retrouver Tom. Salut Tom, comment vas-tu?
Salut, ça va. Bon.
T'as réussi à redémarrer ta Freebox, pour l'instant elle tient bon.
Et je sais pas combien de temps ça va marcher, mais oui.
Bon, croise les doigts, on va demander à Monsieur Niel de nous soutenir. Et la joie est tout aussi grande de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Salut, ça va très bien.
Bon, Guillaume, il disait en pré-intro qu'il a eu des petits déplacements et qu'il a suivi l'actu tech pas autant qu'il le fait d'habitude et on va pas te le reprocher. C'était pour la bonne cause, des relations humaines, ça fait aussi beaucoup de bien. Quoique en disant ça, je pourrais laisser entendre que t'es un gros asocial, ce qui est pas du tout. Non, c'est faux, je refuse. Ne pensez pas ça, c'est pas bien. Allez, quelques retours incontournables sur les moyens de rentrer en contact avec moi ou avec, de manière générale, toutes les personnes que vous allez entendre dans cet épisode. À commencer par techcafé.fr, qui est probablement l'endroit le plus pratique si vous voulez discuter avec nous, réagir à ce qu'on dit dans les émissions et converser avec nous des propos qu'on aura abordés dans les différents épisodes. C'est probablement le moyen le plus facile. Et puis, si vous êtes en mobilité et que vous nous écoutez et que vous avez besoin de réagir un petit peu sur le vif, peut-être que vous allez avoir envie de nous suivre sur Twitter et d'interagir avec nous sur Twitter, @techcafé_fr. Et puis, il y a aussi une page Facebook pour les aficionados de Facebook. Et puis, si jamais vous connaissez un petit peu les podcasts maintenant, si vous en écoutez d'autres, si jamais vous commencez à connaître un peu le format, vous savez que le catalogue iTunes reste un excellent catalogue de découverte de podcasts et vous permet aussi d'aller déposer une note, un avis, un commentaire pour dire ce que vous pensez de l'émission. Et merci par avance à vous si vous ne l'avez pas déjà fait, ça nous permet de remonter dans les notes de l'émission. Et puis ce tour de piste serait incomplet si je ne vous rappelais pas que vous pouvez me soutenir pour Tech Café d'un point de vue tout simplement financier en allant jeter un petit coup d'œil à la page Tipeee. Vous la retrouvez dans les notes de l'émission, mais vous pouvez aussi là tout de suite aller jeter un coup d'œil sur tipeee.com/tech-café pour aller soutenir des 1 euro par épisode le travail qui peut être fait derrière Tech Café. Sans autre forme de prospect, on attaque tout de suite avec la WWDC 2017. C'est la conférence annuelle, en tout cas ce qu'on appelle la WWDC, c'est la Worldwide Developer Conference, c'est-à-dire tous les ans la communication que fait Apple auprès des développeurs, notamment évidemment les développeurs tiers d'applications sur l'écosystème Apple. Et tous les ans, on attend un petit peu la nouvelle mouture des systèmes d'exploitation qui font tourner tous nos appareils. Et dans le cas d'Apple, il y en a plusieurs qu'on peut voir passer, notamment celui pour les Apple TV, donc tvOS, pour la montre watchOS, pour macOS et puis pour les iPhone et les iPad iOS. Si on fait le tour, on va commencer peut-être par les choses qui ont le moins marqué. Alors pas forcément de grosses innovations sur l'Apple TV. Moi ce que je retiens, c'est que grosso modo ceux qui ont des AirPods pourront les connecter encore plus facilement sur leur Apple TV. J'ai pas relevé de choses complètement incroyables sur Apple TV. Ils ont annoncé principalement le fait que Amazon Prime Video, donc le catalogue à la Netflix mais fourni par Amazon, arrivait bientôt sur l'Apple TV et c'est très cool. Ça c'est quelque chose qui pouvait manquer et ça c'est très très bien, c'est un déblocage d'une situation qui pouvait être un peu gênante pour visionner les contenus d'Amazon. Des petites news du côté de WatchOS, la nouvelle version qui fait tourner l'Apple Watch, dont moi je suis très content, et je suis tellement content que les faibles innovations que j'ai pu identifier de mon côté sur WatchOS me montre qu'on est à un niveau système mature pour l'usage qu'on en a et pour l'objet que ça peut vouloir faire tourner. Et donc, il y a finalement assez peu de choses. Bon, des nouveaux cadrans, plus ou moins rigolos. Et peut-être... Alors, il y a Woody, effectivement, il y a les personnages de Toy Story qu'on va pouvoir retrouver en cadran. Et on a beau dire, moi, je trouve ça cool. J'aime bien pouvoir avoir ce type de cadran. Mickey est mon ami de temps en temps sur mon Apple Watch. Et puis, on a quand même ce cadran qui... S'il fonctionne bien, risque d'être très intéressant, c'est la Watch Face Siri. Donc quand je dis Watch Face, c'est un cadran, on peut changer les cadrans pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch. Siri, qu'est-ce que tu en as pensé, Tom? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as pu retenir du fonctionnement de ce cadran Siri et est-ce que tu l'attends avec impatience? Rappelle-nous
avec impatience, aussi quels usages tu fais de pas, mais impatience peut-être pas, mais non, c'est intéressant, c'est quelque chose en théorie qui va s'adapter au lieu et au moment où tu es, donc ça peut être vraiment sympa, parce que c'est vrai que je sais pas pour l'utilisation que j'en ai, en tout cas moi j'ai plusieurs cadrans et je change régulièrement de cadran de montre, donc on peut swiper le cadran de la montre de droite à gauche sur l'Apple Watch et je change selon ce que je fais, en fait, si je fais du sport, si je suis dans la rue, donc c'est non, c'est on peut pas, je pense pas qu'on va innover énormément sur tout ce qui est montre connectée maintenant, hein, sincèrement. À part avoir une montre qui fonctionne peut-être en 3G ou en 4G directement, mais je vois pas où on va aller très loin avec ça.
Ouais, et en plus, il faudrait que ça ait une plus-value. Moi, je te rejoins complètement. Le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est que finalement, pourquoi en faire un cadran? Parce que, comme tu le dis, on change de cadran régulièrement dans la journée. Enfin, on peut changer de cadran autant qu'on veut, d'ailleurs. Et ça a été même facilité dans la précédente version. Et du coup, pourquoi ne pas faire de Siri une fonctionnalité qu'on pourra avoir quel que soit le cadran? Bon, j'ai bien compris, effectivement, la place que ça occupe visuellement. Mais je me disais qu'en termes d'interface, ça pourrait très bien fonctionner comme ça.
Oh ouais, puis il faut noter que Siri et la reconnaissance vocale sur l'Apple Watch marchent extrêmement bien. C'est vrai que pour dicter des réponses, j'ai l'impression que ça marche mieux que sur le téléphone, moi, donc.
Oui, moi ça dépend en fait, mais je reconnais que j'ai pas de difficulté avec ça et j'entends souvent ou je vois souvent passer des personnes sur le web qui critiquent l'usage de Siri, notamment sur la montre, et je trouve que la reconnaissance est plutôt bonne effectivement. Vous l'aurez compris, c'est pas un manque de politesse je pense de ma part de ne pas tourner le micro vers toi Guillaume pour demander spécifiquement ce que tu en penses, parce que je sais que tu n'es pas, et probablement que les auditeurs savent que tu n'es pas forcément en affinité avec les usages de l'Apple Watch, mais par contre si tu veux nous couper et compléter ce qu'on dit, tu n'hésites pas et c'est valable à tout moment bien entendu Guillaume. Un petit mot sur ce qui fait depuis pas mal de temps aussi une des forces d'Apple, c'est macOS, puisqu'il faudra désormais s'être habitué à l'appeler macOS. Je pense que c'est inscrit dans l'esprit de tout le monde de plus appeler ça OS X, mais macOS maintenant, et qui va remplacer donc Sierra par une nouvelle version qui va s'appeler iSierra. Donc comme vous pourrez le comprendre avec le nom qui est assez proche de la précédente version, comme ça avait été le cas pour Leopard et Snow Leopard par exemple, on a une version de macOS qui va pas bouleverser là encore les usages. Décidément, c'est un peu le fil rouge de toutes ces sorties d'OS et pas seulement que du côté de chez Apple d'ailleurs. On bouleverse pas les usages, mais des petits raffinements. Il y a quelque chose qui était assez flou, mais on en avait parlé. C'était quand même le nouveau système de fichiers. Là aussi, un petit mot, Tom. Je sais que Guillaume, on avait détaillé ensemble comment ils avaient procédé Apple pour mettre à jour le système Apple File System sur iOS. Et là, ça va arriver aussi sur macOS. Tom, ça change quoi ce format de fichier?
On va gagner un petit peu d'espace. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est un format qui est plus pratique à manipuler pour Apple aussi. Mais je ne sais pas, peut-être que Guillaume a plus de détails là-dessus, mais il ne me semble pas que ça va révolutionner le truc, en tout cas.
Écoute, APFS, oui, on en avait déjà parlé parce que sous iOS, c'était le passage qui est déjà fait de manière transparente. Ouais. APFS, c'est un système de fichiers qui est plus moderne. Donc, il y a un certain nombre de trucs sous le capot qui vont rendre les choses un petit peu plus fluides et qui préparent l'avenir aussi. Hein. C'est un système qui est plus orienté vers les SSD. En tout cas, qui prend en compte de manière plus efficace les SSD aussi que l'ancien système. Bon, il y a une gestion des métadonnées qui est aussi un peu différente. Voilà, il y a un certain nombre de trucs qui sont un petit peu plus modernes. Bon, très honnêtement, pour un usage courant, bah, la différence n'est pas, enfin, sera pas vraiment spectaculaire. Hein. Ça sera complètement transparent, je pense. Oui.
L'exemple qui était donné dans la WWDC, c'est enfin vraiment le truc le plus concret qui est issu de ce changement de format de fichier, c'est probablement par exemple la copie d'un gros fichier. On sait aujourd'hui quand on copie, quand on duplique un fichier sur un ordinateur, ça peut prendre un certain temps. Et là, la démonstration était faite que c'était très très rapide. Enfin, la vitesse n'avait absolument rien à voir. On sent qu'il y a effectivement un aspect catalogue à la façon dont les fichiers sont gérés. Et il y a quelque chose de peut-être beaucoup plus moderne dans la façon de concevoir la façon dont sont formatées les informations. Et c'est tant mieux. Ça, c'est un bénéfice concret. Un autre bénéfice qui sera intéressant, je pense, pour ceux qui sont soucieux de la vie privée, c'est des intégrations dans Safari de manière de protéger le tracking. Alors, on ne parle pas évidemment d'adblock, on ne parle pas d'anti-pub, pas du tout, mais ils ont mis en scène cette situation qu'on a tous connue. On va se renseigner sur un produit et on se retrouve après, d'ailleurs sur plusieurs appareils qu'on peut utiliser et sur lesquels il y a des liens en termes de connexion, si on n'a pas mis un certain nombre de limitations, au fait d'avoir des pubs qui vont nous reproposer ce produit. Et d'ailleurs, même si on l'a déjà acheté, on va continuer à avoir des pubs dans le temps sur ce type de produit. C'est assez insupportable. Donc là, il y a évidemment des choses qui sont proposées par rapport à ça dans Safari, et c'est cool. Et puis voilà, des éléments qui tournent aussi autour des formats de fichiers, notamment sur l'image et la vidéo, des nouveaux codecs et en gros une meilleure compression, comme ça va être d'ailleurs implémenté sur iOS. Et c'est peut-être là où on peut s'attarder un peu plus dans les petites news et dans les détails des innovations, c'est iOS version 11, où là, pour le coup, on a énormément de choses. Autant iOS 10, il y avait beaucoup de choses, mais qui concernaient surtout l'iPhone. Là, on s'est largement concentré sur les fonctionnalités sur l'iPad, et pour cause, c'est là où il y a le plus de choses qui changent. Tom, est-ce que tu as envie de nous détailler les quelques fonctionnalités qui font que pour toi, je l'espère, iOS 11 sera incontournable sur ton iPad demain?
Ah, finalement, on va se débarrasser du dock pourri qui est en bas et qui ressemble à un dock d'iPhone oversize. Finalement, on a un dock qui va ressembler. On arrive vers des OS qui sont des mix de mobilité et de desktop, et je trouve ça vraiment sexy. Le nouveau dock où tu peux rajouter autant d'apps que tu veux. Alors, je crois qu'il y en a, il y a une limitation, par contre. Je crois que ça doit être 10 ou 11. Et la partie droite qui te rappelle les dernières apps que t'as ouvertes. Mais ça a tellement de sens que je sais pas comment c'est pas arrivé avant. Et rien que ça change la façon dont tu travailles, puisque ce dock, tu peux le faire swiper à n'importe quel moment, dans n'importe quelle app, pour passer d'une app à l'autre. Donc ça va faciliter énormément le multitasking aussi. Et c'est, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai dit enfin.
Mais moi aussi, effectivement, c'est quelque chose que j'attendais. Alors, c'était pas d'ailleurs nécessairement ce dock que j'attendais avec impatience sur mon iPad, mais vraiment la gestion du multitâche et du multifenêtrage que je trouvais vraiment limité. C'était une bonne intention dans iOS 10, mais très limité par rapport à ce qui peut se faire sur des tablettes Windows 10, par exemple, aujourd'hui, ou même d'ailleurs depuis les précédentes versions de Windows comme Windows 8. Il y avait une meilleure gestion du multifenêtrage. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose de très intelligent, au point qu'on va arriver à afficher probablement même jusqu'à trois applications en même temps de manière assez cohérente, avec une séparation des fenêtres mieux pensée, notamment quand on change de deuxième application lancée, et avec la possibilité de mettre en flottant par-dessus une troisième application. Oui. Et on peut même rajouter une lecture en picture in picture, comme on dit, de vidéo. Donc on peut afficher des kilomètres d'informations sur les nouveaux iPads. C'est un des trucs les plus visibles doc qui montre que l'iPad s'oriente vraiment sur quelque chose qui souhaite de plus en plus remplacer l'ordinateur. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé de très marquant et qui va probablement aussi changer la donne par rapport à ça, c'est la gestion des fichiers. On a enfin, ça y est, 2017, innovation incroyable, dans l'univers de l'iPad en tout cas, un explorateur de fichiers. Est-ce que tu peux nous dire là aussi, Tom, ce que tu en as, de quoi il retourne retournes et ce que t'en as pensé.
Bah, alors moi, il y a plein de détails qui manquent. J'aimerais bien savoir si on va pouvoir finalement dézipper des points zip dans ce truc-là. On peut le faire dans Document aujourd'hui, ouais. Document 6 de Sherry Debol. Est-ce qu'on pourra le faire? J'espère, parce que sinon, bah, ça sert pas encore à grand chose. Mais finalement, un système de fichiers, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, on se rapproche du desktop de plus en plus, et ça va vachement faciliter, bah, la manipulation, parce que avant, pour passer un truc d'une application à l'autre, ou de oh là là, c'est quand même pas pratique, hein. C'est vrai que
parce
ça sauve la vie, ce genre de choses.
Effectivement, en plus, il y a le glisser-déposer entre les apps. Donc là encore, je pense que quand on n'utilise pas un iPad au quotidien, on se dit, bah, super, ils sont gentils, les fanboys Apple, ils découvrent le glisser-déposer entre les applications
en 2017.
Bon, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et tu vois, par exemple, je pense et tu as raison, je me posais la même question par rapport au fait de dézipper des fichiers. Mais pour le coup, le côté multitâche, ou plutôt multifenêtré de l'iPad, sous iOS 11 est tellement bien pensé que même s'il n'y a pas le dézip dans fichier, finalement, tu peux très bien imaginer avoir une application dans le dock qui dézip, ou en flottant à droite, glisser ton fichier vers le zip. C'est pas génial, mais on sent que ça devient un système qui dépend de moins en moins des défauts de l'OS, je trouve.
Il y a mission contrôle pour contrôler tout ça. Mission et contrôle, c'est aussi un apport de macOS vers iOS. C'est en fait quand tu swipes le dock, quand tu swipes de bas en haut, tu as le dock qui apparaît. Si tu continues de swiper, en fait, et ben toutes les fenêtres et tous les multi-desktops, on va dire, configurations que tu vas avoir vont être conservées. Ça veut dire que si tu avais un espace de travail avec d'un côté, je sais pas, un truc pour les notes et une fenêtre Safari, et de l'autre côté tu avais une fenêtre avec YouTube, et ben tu vas pouvoir garder ces configurations là. Et ça c'est génial. Ça veut dire que tu vas pouvoir ne pas fermer les applications en permanence.
L'iPad avec iOS 11 devient effectivement peut-être de plus en plus potentiellement un remplaçant de l'ordinateur. Ça l'était pour certains usages, pour certaines situations. Ça le devient peut-être pour encore plus d'usages, encore plus de situations. J'ai envie de te demander, Guillaume, à ce stade, t'as le choix entre trois curseurs. Évidemment, je te laisserai développer. Premier curseur, waouh, génial, quelle innovation. Autre curseur inverse, arrêtez de déconner les mecs, l'iPad, vous êtes gentils, ça fait des dizaines d'années qu'on a ce que vous êtes en train de décrire sur d'autres appareils, ça me fait bien rigoler. Ou est-ce qu'on a un curseur intermédiaire de ton côté qui vise à dire, bah, finalement, oui, c'est une évolution qui est très sympa et tant mieux, et voilà.
Je sais pas, tu veux que je sois gentil ou non, non,
j'ai envie que tu sois toi-même.
C'est normal.
Oui. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé dans iOS 11 et qui, je pense, est potentiellement historique. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites, en fait, parce que pour tout ce que vous racontez, plus ou moins, j'ai envie de mettre le curseur sur so what, qu'est-ce que ouais,
d'accord,
où il est, où le problème, quoi, je m'en fous. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, ce qui est vraiment super, enfin, ce qui est assez marquant, effectivement, m'a beaucoup marqué sur iOS 11. En fait, il y a deux choses, mais l'autre, c'est un semi-troll, donc j'en parlerai après. Mais le truc vraiment important, c'est l'adoption par iOS 11, c'est l'adoption systématique du nouveau format de compression photo, IF, qui s'écrit HEIF.
Oui.
Ça, c'est quand même assez, assez remarquable, parce que par défaut, iOS 11, mais aussi macOS, vont utiliser HEVC tout le temps, partout. Ça veut dire que quand vous ferez une vidéo, ce sera forcément du H265, et quand vous prendrez des photos et que vous gérez vos albums, ils seront tous compressés en HEIF, HEIC, donc c'est-à-dire, ce sont des fichiers de compression qui sont nouveaux par rapport au JPEG. Il faut savoir que JPEG, c'est très vieux maintenant, hein, et qu'il y a déjà des remplaçants au JPEG, mais que jamais aucun de ces remplaçants n'a eu le moindre succès. Faut se rappeler que JPEG, ça date des années 90. C'est un vieux truc qui a été dépassé par le JPEG 2000, dans les années 2000.
Rien que le nom, il est un peu rétro, JPEG 2000, quand même.
Et le JPEG 2000 est dans les 40% plus efficace que le JPEG pour compresser les photos. Après, il y a eu le JPEG XR. Qui se souvient du JPEG XR?
Pas moi.
JPEG XR, c'est un format qui a été créé par Microsoft et qui a été mis en accès libre, totalement libre de droit, et qui est non seulement plus efficace que le JPEG, mais qui est aussi beaucoup plus rapide à décoder et à encoder. Et pourtant, personne n'utilise JPEG XR. Mieux, il y a encore mieux que ça.
Oui.
Le HEVC. Alors oui, mais justement, il y a Google qui a aussi fait son WebP. WebP, c'est issu du codeur intra de VP9. Bon, c'est exactement la même chose que HEIF, en fait. Donc, alors Google utilise sur ses propres sites WebP, mais qui d'autre? Est-ce que personne n'entend parler du WebP, quoi? Il y a quasiment encore que du JPEG.
Mais ils l'ont jamais implémenté vraiment, même dans leur système, même dans Android.
Ils utilisent VP9 quand même sur leur serveur, je pense. Hein. Je pense que sur leur serveur, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Donc je pense qu'ils utilisent WebP, WebM quand même sur leur serveur. Mais enfin, c'est vrai que personne n'utilise couramment un remplaçant du JPEG. Et pourtant, il y a quoi, 2-3 ans, il y a un format de fichier qui s'appelait BGP. BGP, c'est BPG. Je crois que ça s'appelait Better Portable Graphics, qui était deux fois meilleur que le JPEG. Et devinez ce sur quoi se reposait BGP, BPG, je vais y arriver, ça reposait sur le codeur IntraFrame de HEVC, c'est-à-dire H265. Et ce format, que personne ne connaît, que personne n'a jamais utilisé, malgré son excellente efficacité, eh ben c'est à peu près la même chose que propose Apple aujourd'hui. Alors, pourquoi donc c'est significatif? Ça veut dire que depuis, je ne sais pas, presque 20 ans, il existe des alternatives meilleures au JPEG et que personne n'a jamais utilisé parce que personne ne veut prendre le risque d'être incompatible, si, quelque part. Donc, il y a plein de possibilités, mais personne arrive à standardiser quelque chose de meilleur que le JPEG et du coup, on se retrouve tous avec le JPEG. Or, là, Apple fait un move qui est quand même couillu, puisque lui, il passe intégralement, toute la pile graphique, vidéo et photo va reposer intégralement sur H265. Tu as dit tout à l'heure que macOS Sierra ajoutait de nouveaux codecs, bah effectivement, H265 est un codec payant, et dont Apple a une licence, permet d'encoder des vidéos donc avec un niveau de compression qui est deux fois supérieur au H264 qui est utilisé encore aujourd'hui très couramment. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est qu'il existe un profil de H265, le Still Image, qui est capable de faire de la compression de photos. Et que cet algorithme-là est utilisé dans le HEIF, qui va être utilisé de manière totale par Apple pour encoder toutes les images, non seulement sur le serveur, mais aussi sur tous les appareils iOS et macOS. Et du coup, on se retrouve avec un grand constructeur qui prend le risque, enfin, de passer d'imposer un format au-delà du JPEG, et peut-être que ça va donner l'impulsion de enfin essayer de standardiser un format de fichier qui est meilleur que le JPEG, parce que tout le monde utilise le JPEG, alors qu'il existe depuis des années des alternatives qui sont deux fois meilleures. Donc tout le monde utilise deux fois trop de disques durs pour stocker ses photos. Peut-être que c'est la fin de ça, et je trouve que c'est vraiment très cool.
Ouais, alors la fin sera peut-être pas demain non plus, parce que je pense que, alors j'ai pas les détails hein, évidemment, mais j'imagine que quand tu exportes, enfin quand t'enverras un mail avec une image depuis ton iPad sous iOS 11, il la convertira dans un JPEG bien universel, non?
C'est ça qui est prévu en théorie.
Donc tu vois, enfin mais par contre là où tu as raison, c'est que je pense que c'est, et qu'on aime Apple ou pas pour le coup hein, mais c'est probablement la seule société qui est à même de proposer ce genre de changement, parce qu'il y a suffisamment d'écosystèmes d'usage qui permettent de justifier ce changement, et si on reste sur les écosystèmes Apple, finalement on va pouvoir bénéficier de ce changement de manière tout à fait transparente, mais
évidemment,
à l'extérieur ça va pas changer comme ça.
Alors, en plus, bon, évidemment, ça c'est le côté positif. Le côté positif, c'est ça bouge et on essaye d'imposer des trucs qui sont enfin meilleurs, qui sont enfin plus efficaces et modernes, quoi. Le truc qui est pas cool, c'est que H265, je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est ouvert et libre.
C'est pas open source.
H265, on peut pas l'utiliser sans licence. Et c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, c'était le cas aussi de H264, hein, le truc d'avant, le truc qui est utilisé sur les Blu-ray. H265 est utilisé sur les Blu-ray 4K Ultra HD pour donner une idée, alors que H264 est utilisé sur les Blu-ray standard. Mmh. Bon, globalement, ce sont des formats qui sont payants. Or, il existe des alternatives gratuites qui ont eu et qui ont toujours énormément de mal à s'imposer. Que ce soit pour le son, la vidéo ou pour les photos, des alternatives avec des formats ouverts existent. Tu vois. Donc, ce qui est emmerdant, c'est que Apple fait le choix d'utiliser des codecs modernes. Ça, c'est cool. Malheureusement, ce sont des choix fermés qui reposent sur un système de licence absolument dégueulasse. Système de licence qui a d'ailleurs probablement été fatal au BPG, puisque encore une fois, le BPG c'est exactement la même chose, plus ou moins. Enfin, je veux dire en termes de compression, d'efficacité de compression, c'est la même chose que le HEIF. Du coup, on peut se demander si c'est si cool que ça. Il faut savoir d'ailleurs que en termes de vidéo. À peu près tout le monde, c'est-à-dire Opera, Mozilla, Microsoft, un peu tout le monde, travaille sur une alternative à HEVC, qui s'appelle AV1, je crois, et que Google lui-même travaille sur cette alternative-là, puisqu'elle a lâché, parce que bon, il travaillait sur VP9, il voulait faire VP10, et finalement, il se joigne au consortium. Donc il y aura un truc qui sera beaucoup plus libre, avec des licences beaucoup plus souples que la HEVC. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est HEVC qui risque de devenir un standard de fait, quoi. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Bon.
Ouais, après, de la part d'Apple, et quand tu attends sinon les innovations, en tout cas les propositions d'évolution d'Apple, tu t'attends pas forcément, effectivement, à avoir une solution open source. Ça se serait depuis le temps. Mais je comprends les impacts que t'es en train de souligner. En tout cas, ça risque de changer la donne quand même sur le stockage, hein, tout simplement, parce qu'on va avoir des contenus médias qui seront de même qualité et avec des compressions deux fois plus efficaces. Donc on attend ça avec impatience. Et si vous avez le malheur d'avoir acheté un iPhone 8 Go, vous avez peut-être pas retrouvé un peu de place, allez savoir.
Vous pourrez peut-être pas utiliser iOS 11 vu qu'il est réservé aux 64 bits.
Ah oui, bon, peut-être qu'il y a des appareils 64 bits, 8 gigas de... Bon, je pense pas, je digresse. On peut pas faire le tour complet de toute façon de toutes les fonctionnalités d'iOS 11, et je pense que vous allez trouver très facilement dans d'autres émissions ou sur Internet la liste bien exhaustive, bien suivie de tout ce qui a été annoncé. On peut les donner très rapidement et peut-être notamment sur les choses qui nous ont marquées. Moi, je suis bluffé par les évolutions qui continuent sur Notes pour remplacer les Evernote, OneNote et consorts, et ça devient effectivement des alternatives de plus en plus crédibles. Un mode voiture qui paraît complètement idiot, parce que d'un point de vue technologique c'est pas très innovant et malgré tout très bien pensé, et si ça peut apporter un peu de sécurité et préserver des vies par rapport aux risques sur la route, ce sera très très bien.
Tu connais l'anecdote sur cette fonctionnalité quand même?
Non.
Eh ben, c'est il y a quelques mois, il me semble, Apple s'est pris un procès de parents dont la fille ou le fils, je sais plus exactement, est mort dans un accident de voiture parce qu'il était au téléphone, qu'il a répondu à un message, je sais plus exactement encore. Et je pense que c'est en réaction à ça aussi. Je trouve que c'est vachement bien.
Ta remarque est super intéressante, parce que ça soulèverait d'ailleurs un débat à part entière, je sais pas si on va le mener, qui serait plus philosophique que technologique. Mais du coup, et ça fait écho à une discussion que j'ai eue avec Guillaume Poggiaspala, si vous remontez quelques épisodes, par rapport à la facilitation de, par exemple, les moyens de paiement, et ça avait d'ailleurs suscité pas mal de commentaires. Mais moi, je trouve ça génial. Je tombe dans, je pense, la cible qui est très contente de voir ce genre de choses arriver et qui voit les bénéfices. On pourrait aussi mener le débat en disant, finalement, on arrive quand même dans une société où on est tellement assisté par la technologie qu'il faut que notre smartphone nous dise à notre place qu'on est en voiture et qu'on doit avoir un comportement responsable, parce qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes.
Ah oui,
tu vois.
Ça.
Donc c'est, alors quelque part, il y a, moi je suis ravi de voir ça arriver, et j'ai hâte de le voir arriver. Je trouve ça très bien, et je pense qu'effectivement c'est formidable pour les avancées pour lutter contre la mortalité sur la route. Mais il y a quand même un peu d'amertume de me dire, finalement, et je me mets vraiment dans le panier, hein, je suis tellement assisté que j'ai besoin de ça, et je suis pas capable de moi-même de me dire, tiens, mon smartphone, j'y limite les notifications.
Ouais. Là, c'est quand même de l'aide. C'est vrai que moi je regarde pas mon smartphone, tu vois, mais c'est vrai que quand t'entends une notification, même si tu fais attention, ça te distrait quelque part.
Ouais, ouais,
t'as une distraction, donc là c'est une aide justement à couper automatiquement ce truc-là. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit complètement inutile. C'est vrai que l'assistanat c'est effrayant, mais là dans ce cas-là, je pense que c'est ça aide une technologie moderne justement à rester agréable.
Ouais, je te rejoins, Guillaume. Je peux pas m'empêcher évidemment de te tendre le micro sur cette histoire. Qu'est-ce que tu en penses quand on arrive dans une société où on se ravit, on arrive à une époque où on est ravi de voir que notre smartphone est plus responsable que nous et obligé de faire les choses à notre place par rapport à la sécurité sur la route.
Mais attends, mais un truc que j'ai pas compris, c'est que ton téléphone sait quand tu es dans la voiture,
c'est ça.
Il se met en... Oh, d'accord.
Donc, c'est ça. En fait, alors il le sait tout simplement parce que si jamais il est rattaché à une connectique Bluetooth qui est à ta voiture, bah il va comprendre que t'es dans ta voiture. Et sinon, il peut aussi se baser sur un certain nombre d'informations et notamment les informations qu'il capte avec l'accéléromètre, le gyroscope, enfin. Plein d'informations qui, je pense, sont issues de leurs tests et qui montrent qu'aujourd'hui, ils savent quand ton smartphone est dans un véhicule type voiture, quoi.
D'accord. Non, mais c'est très bien, effectivement. Je pense que c'est mieux comme ça. Le truc, c'est qu'on peut effectivement avoir la discipline de le faire soi-même. Hein. Personne ne t'empêche, effectivement, de mettre ton truc en mode avion,
exact.
Et puis voilà, quoi. Mais le truc, c'est que même le mode avion laisse passer un certain nombre de notifications qui sont internes au téléphone. Par exemple, quand t'as des jeux et qu'il te demande de te connecter ou de jouer parce que t'as des pièces à récupérer.
Ouais.
Ça, c'est un truc qui est laissé passer par le mode avion, du coup. Et c'est assez emmerdant de désactiver toutes les notifications de tout le monde, tu vois, et de les remettre après, juste quand tu vas en voiture. Et là, ça, je pense que c'est coupé, ce qui est pas une mauvaise chose, finalement. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. S'il y a vraiment un mode spécifique où le truc sait que t'es dans la voiture, il coupe vraiment toutes les notifications, même les internes, c'est pas plus mal, non? C'est plutôt une bonne idée, en fait.
Dans iOS 12, il y aura un mode cinéma pour qu'on arrête de te casser les couilles avec les notifications cinéma. Peut-être.
Est-ce qu'il y aura un mode rencontre amoureuse?
Ah, aussi, c'est bien ça.
C'est pour obliger les gens à se parler et puis arrêter de.
C'est la version 13.
Toutes les 12 secondes, quoi.
Bon bah écoutez, très bien, bah je trouve ça intéressant la tournure que ça prend. C'était un petit peu aussi l'objectif, comme on arrive quelques jours après la WWDC, je pense que beaucoup de relais ont été faits et je trouve que si on peut y apporter un angle critique en s'attardant sur certains aspects tels que celui-ci, c'est très bien. On pourrait lister rapidement le centre de contrôle qui devient assez bordélique mais personnalisable, enfin de mon point de vue bien entendu, les plans d'intérieur, l'installation automatique de votre appareil, et puis deux petites choses moi que j'aurais envie de relever. Il y a une fusion de l'écran verrouillé et du panneau de notification. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez déroutant, et une fois qu'on le voit, une fois qu'on le comprend, finalement c'est assez intéressant, mais il y a quand même quelque chose qui risque de changer la donne pour pas mal d'habitudes et d'utilisateurs qui ont pris l'habitude d'avoir et d'un côté des notifications sur la partie verrouillée de leur smartphone et des notifications dans le centre de notification qu'on retrouve en haut des smartphones, que ce soit d'ailleurs iOS ou Android. Donc ça, c'est intéressant. Et puis autre chose aussi sur lequel je sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous tenterait, notamment quand ça arrivera en France, mais ce sont les paiements par e-message via Apple Pay. Donc grosso modo, alors là, bien entendu c'est iOS 11, mais d'abord que aux États-Unis dans un premier temps, mais on peut imaginer que ça arrivera en temps et en heure plus tard chez nous, notamment en France ou dans les autres pays évidemment. C'est le paiement par e-message, donc si on est tous les deux, pardon,
c'est 3% de commission par paiement.
Ah, alors ça je l'avais absolument pas en tête.
C'est pas 3%,
fait...
ça.
Un petit peu mal, quand même. Ouais, 3%. OK, très bien.
Et tu vois, on se dirige Apple, quand même.
Bien sûr.
Ça va devenir une grande banque, bientôt.
Ouais, tout à fait.
On y va doucement, mais sûrement.
3%, ouais, je l'avais pas en tête, c'est intéressant. Bah, voilà. Vous pourrez payer par e-message avec 3% de commission. Très bien. On continue un petit peu sur les petites annonces de cette WWDC, puisqu'il y a eu aussi des annonces matérielles. Je sais que c'est quelque chose qui t'a beaucoup touché, Tom. Je ne peux pas te laisser sans nous détailler de quoi il s'agit, y compris le nom, s'il te plaît. De quoi s'agit-il de ce truc-là?
C'est la Boombox d'Apple. Non, blague mise à part, il y a quelques années, Apple avait sorti une espèce de boombox gigantesque. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était un truc énorme. Je l'ai toujours à la maison et je vous jure que le son de ce truc est incroyable. Alors, s'ils ont réussi à faire un truc moderne comme le HomePod qui a été dévoilé à la dernière conférence avec un son aussi incroyable que ce qu'il y avait avant, c'est je prenais mon argent quoi. C'est ils sont très très forts, ils sont très très forts là-dessus. Leur communication elle est excellente aussi. C'est ils essayent de pas se battre sur le fait que ce soit une enceinte intelligente, mais plus sur le fait que ce soit une enceinte pour de la musique et qu'en plus, eh ben tu peux lui poser des questions et lui demander deux trois trucs. Non, je trouve que c'est un beau produit. Technologiquement, c'est hyper avancé par rapport à ce qui se fait beaucoup. C'est plutôt pas cher par rapport à ce qui se fait dans la concurrence, par rapport à une très bonne enceinte de haute qualité, enceinte intelligente en plus. Donc non, je suis impatient d'écouter. Apparemment, les retours des gens qui l'ont eu pas loin des oreilles ont l'air très bons. Donc écoute, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi ça me tente bien en tout cas.
Moi, je me rends compte avec le temps que je ne consomme pas suffisamment de musique, et notamment de musique chez moi, pour être à chaud intéressé par ce type d'appareil. Mais clairement, le produit a l'air vraiment top. Il s'adapte à votre pièce pour optimiser le son pour que ce soit le plus approprié possible. On est capable d'en mettre plusieurs. Il y a d'autres marques qui font ça, mais évidemment, c'est des choses qui vont aussi être probablement très bien intégrées dedans. Mais on peut en mettre plusieurs et ils arrivent à comprendre qu'ils sont plusieurs et donc adapter leur son. Et là où c'est intéressant, je trouve que ce que tu soulignes est à mon avis assez clé. C'est que dans la guerre des assistants domestiques et des Alexa et compagnie qu'on va voir arriver dans nos intérieurs, Apple a choisi la méthode douce, la méthode connue, la méthode sur laquelle ils se sentent à l'aise, c'est celle de la musique. C'est simplement une baffle connectée qui vous permet effectivement d'interagir un peu avec Siri, mais j'ai trouvé que la façon dont était présenté le produit, c'était probablement absolument pas la manière dont je pensais qu'ils apporteraient ce type de produit. J'étais convaincu qu'ils annonceraient ça comme étant quelque chose d'amazing, de révolutionnaire, quelque chose qui ferait que notre intérieur serait plus jamais le même, parce qu'on aurait de l'intelligence. Et je pense qu'il y a finalement derrière cette annonce très tournée musique, mais qui intègre, comme tu le dis, beaucoup d'autres éléments d'assistance et qui arriveront dans le temps, je pense aussi, quelque chose qui ressemble à quelque chose de très humble. On critique souvent, et là je parle uniquement de l'image, hein, pas de la tech ni de la philosophie de la chose, mais uniquement sur l'image et sur l'aspect de la communication. Je pense que un des défauts d'Apple, ou en tout cas un des défauts dont ils sont conscients, c'est cette propension à être fier, amazing, révolutionnaire sur tout. Et je trouve, c'est peut-être la première fois que je vois un produit annoncé de leur part, un nouveau produit en tout cas, qui n'est pas annoncé comme quelque chose qui va bouleverser nos vies, mais qui est juste très bien, quoi, et qui est très simple et qui est basé sur la musique. Tu vois ce que je veux dire ?
Je pense qu'ils ont, ils savent pertinemment que Alexa et Google Home sont quand même légèrement en avance, et ils se sont dit, c'est quoi le défaut de ces produits ? Bah, ils ont un son de merde. Ils ont vraiment un son de merde, c'est dégueulasse. Et puis bah Echo, bah ça ressemble à un gros tube noir, c'est quand même pas extraordinaire. Puis Google Home, bah ça pourrait être un thermomètre, que ça ferait la même chose visuellement. Là, t'as un truc qui est sexy et ils te le vendent du côté où tous les autres ont un défaut. Ouais. Ils te vendent une super enceinte. Tu veux une enceinte Bose de qualité, c'est 600-700 euros et elle fait que ça. Et là, t'as un truc avec 7 haut-parleurs, 6 microphones, un subwoofer qui, d'après les premiers retours, a vraiment un très très bon son. Ils sont très forts. Ils ont joué une carte assez géniale. C'est deux appareils en un. Et en plus, celui-là, tu peux écouter de la musique parce qu'il est bien.
Ouais, c'est des ordinateurs d'ailleurs, hein, puisqu'il y a vraiment des puces dedans. Enfin, c'est vraiment conçu comme un ordinateur, enfin comme un appareil complètement classique, mais avec un super son. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau type de produit ? Je te donne pas les trois curseurs. T'as, je pense, une idée des trois curseurs que j'ai en tête. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben non, mais enfin, je suis, je suis pas vraiment client de ça parce qu'effectivement, voilà. Mais c'est vrai que d'un côté, je trouve ça effectivement malin de l'avoir centré sur la musique parce qu'effectivement, ça permet de faire passer la pilule la pilule du prix évidemment, de manière plus, parce que plus facile, hein, forcément, quand le petit côté audiophile, effectivement, une grosse enceinte Bose, c'est super cher. Là, c'est vrai que vous avez deux trucs à l'un. D'un autre côté, je comprends pas très bien la stratégie parce que le but c'est quand même de foutre Siri dans tous les foyers, dans toutes les maisons, pourquoi faire un truc qui soit aussi cher, quoi, tu vois? Et pourquoi pas faire un haut-parleur good enough et un prix concurrentiel? Là, encore une fois, il se positionne sur du très haut de gamme.
Ah oui.
Et c'est pas forcément le meilleur moyen d'en vendre des brouettes, quoi, tu vois. Donc je suis un petit peu étonné pour ça, quoi. C'est bon, bah maintenant après je sais pas, peut-être que j'ai tort et que tout le monde va. C'est combien le prix d'ailleurs? 350 ou
350, oui.
Ouais, 350, bon. Enfin, alors c'est vrai que 350
c'est
pour
moins cher
une belle enceinte de très haute qualité, c'est bon, c'est correct, on va dire. Bon, qui achète, tu vois, qui est audiophile au point d'acheter ce genre de truc comme ça, je sais pas.
Moi, je pense après, que je me trompe peut-être si tu veux, mais il y a sans doute des arbitrages marketing. Oh, on n'est pas dans le secret des dieux, hein. Mais je pense qu'il y a des arbitrages. C'est ma vision en tout cas. Il y a des arbitrages marketing qui visent à dire, il vaut mieux. On a plus d'argent à se faire en vendant ce type d'appareil qui va être associé inévitablement à des abonnements Apple Music. Sur lequel ils ont des enjeux, sur lesquels je pense qu'ils ont des objectifs.
Clairement.
Et je pense qu'ils auront beaucoup plus facilement la possibilité de diffuser du bénéfice par rapport à ça, que de proposer des boîtiers Siri pour, j'en sais rien, 100 balles, alors que finalement, ce Siri, il est déjà partiellement présent aujourd'hui derrière bon nombre de télés au travers de l'Apple TV. Et finalement, tu arrives à te dire, si jamais c'était juste un assistant avec un son moyen, il serait très vraisemblable que le bénéfice et que la base qui serait vendue et donc installée serait probablement bien inférieure à ce nouveau produit qui fait que effectivement c'est cher, mais ça reste le prix que vont mettre bon nombre de personnes s'ils veulent un équipement somme toute simple et d'excellente qualité pour leur intérieur. Et si en plus ils sont déjà chez Apple, je pense qu'ils ont tout gagné, effectivement. Mais
moi j'ai une question, et ça j'ai pas trouvé, c'est est-ce que cet HomePod est capable de répondre à plusieurs personnes?
Oui, alors c'est ce que j'ai retenu en tout cas de la présentation, et c'est ce que j'en avais interprété, mais peut-être que je me trompe. Mais effectivement, non seulement il est capable a priori de répondre à plusieurs personnes, et il est capable aussi de répondre dans des conditions assez dingues, parce que les images qui nous étaient diffusées, si jamais c'est la vraie réalité dans les tests de tout le monde, font que en gros on peut avoir le HomePod à l'autre bout de la pièce et grosso modo il réagit, quoi.
Bon, on verra.
We'll see. En tout cas, ça n'arrivera pas en France avant quelques temps, pas avant 2018.
Février ou mars, ouais.
Donc il y a le temps. Et puis on va finir notre tour de piste parce que ça en intéressera probablement certains d'entre vous. La gamme des MacBook Pro a été revue avec des nouveaux processeurs. Donc si vous voulez des choses plus puissantes, vous avez de quoi vous mettre sous la dent. Vous avez aussi de nouveaux iMac, là aussi plus puissants, et même un iMac Pro. Alors ça ravira probablement toute une gamme de personnes qui ont besoin d'usage, pour le coup, vraiment professionnel, hein. C'est pas que marketing le terme de pro, mais des machines qui ont des capacités en termes de traitement autour de notamment la réalité virtuelle, la production il y a des oiseaux qui piaillent, j'espère que vous entendez pas trop, de la haute production visuelle, qui vont être très satisfaits par ce type de produit. Et puis enfin, et je vous laisserai réagir si jamais vous le souhaitez par rapport à tous ces nouveaux matériels, des nouveaux iPad Pro, l'iPad Pro 12,9 pouces, si je dis pas de bêtises, ou 12, quelque chose pouces, 9. Qui a été 12,9, merci Tom, qui a été revu avec les dernières technologies qui vont bien, une fréquence d'écran rafraîchie, et puis l'iPad 9,7 pouces qui change et qui gagne en gros un pouce pour ne pas prendre tant que ça en taille. Donc une très belle optimisation de l'iPad Pro qui était anciennement à 9,7 pouces. Moi, c'est peut-être le matériel d'ailleurs qui m'a le plus marqué dans cette conférence et qui m'a le plus interpellé.
D'ailleurs, tu as vendu un rein.
Et d'ailleurs, j'ai vendu encore... un.
C'est le troisième déjà.
j'ai déjà. Bon, je suis en train d'attaquer l'estomac. Mais non, effectivement, moi, je renouvelle mon iPad à peu près tous les ans, compte tenu de l'usage que j'en fais. C'est une des manières que j'ai aussi d'y perdre le moins possible, je pense, dans l'absolu. Compte tenu de mes volontés de changement. Tom, qu'est-ce qui t'a marqué dans le matériel ? Est-ce que tu as des remarques particulières ou est-ce que tu trouves que c'est des évolutions complètement normales ?
Évolution normale, petite surprise sur l'iMac Pro. J'ai mis du temps à comprendre pour qui il était fait. Je pense que c'est pour des entreprises qui veulent monter des stations de travail pas si chères que ça au final, très professionnelles et rapides à maintenir. En attendant le nouveau Mac Pro qui arrivera, je sais pas quand, l'année prochaine sûrement. Mais sinon, des iPad Pro, moi ce qui me bluffe et j'attends de le voir, c'est les écrans à 120 Hz. Ça, je l'attends vraiment. Ça va réduire la latence avec l'Apple Pencil et ça aussi, ça m'intéresse. Donc, je changerai peut-être aussi moi. Je me sacrifierai peut-être encore un rein aussi et on verra plus tard.
J'ai pas eu le temps de tester et c'est vrai que j'aime beaucoup dessiner et écrire sur l'iPad. Là encore, on pourrait s'attarder, mais d'autres le feront mieux que nous, sur le fait que Notes devient quelque chose de très très pertinent pour saisir des notes manuscrites avec le pencil sur l'iPad. L'iPad Pro, évidemment. Mais de l'aveu de tous ceux qui ont eu la possibilité de faire des comparatifs, il y a une vraie évolution sur cette fréquence de rafraîchissement qui fait que, effectivement, l'écriture et le dessin avec l'Apple Pencil est bien plus réactif, de là à dire que l'ancienne version d'écran est ringardisée, il faut peut-être pas exagérer non plus.
Ah non, c'était déjà très réactif, hein. Dessiner sur iPad Pro, c'est vraiment un plaisir.
C'est encore mieux. Guillaume, une petite remarque sur le matériel ou est-ce qu'on passe à la suite ?
Non, moi les iMac Pro sont assez incroyables hein, quand même, puisque ça va. Enfin, vous avez des modèles, bêtes, c'est hein. Des Xeon, c'est des dual, je pense que c'est des doubles, hein, des doubles Xeon 18 cœurs.
C'est ça, ouais.
Des doubles Xeon, donc 18 cœurs au total. C'est quand même vraiment brutal, surtout dans un châssis d'iMac.
Ça doit déchirer pour Excel, ça.
Mais je comprends pas comment ils ont fait pour mettre des trucs dans un iMac. Enfin, tu vois, c'est assez incroyable. Non, pour le coup, bon, ce sont des machines absolument, absolument merveilleuses. Je sais pas trop combien elles vont coûter. J'ai toujours, malgré tout, hein, je vais toujours faire mon chier, mais j'ai toujours un petit peu de mal quand même à voir la pertinence de faire une machine professionnelle tout en un que tu puisses absolument pas customiser. Bon, tu me diras, c'est sûr qu'avec des configurations pareilles, elles sont pareilles pour le futur, tu vois, tu crois. Mais bon, c'est toujours ce que tu crois quand tu les achètes, et puis 5 ans plus tard, voilà quoi. Donc, je trouve ça un peu étrange quand même de faire des machines aussi puissantes, aussi pro, aussi orientées pro, dans un châssis, enfin voilà quoi, qui a strictement aucune évolutivité, tu vois. C'est, je trouve ça un peu étrange, mais bon. Les machines sont merveilleuses, ça.
Ouais, je comprends l'argument et je ne suis heureusement pas amené à devoir gérer le parc informatique d'une agence qui a besoin de telles ressources, parce que sinon je serais bien embêté pour répondre à ta question, effectivement. Parfait, ça me rappelle, petite parenthèse, hein, j'avais ma chérie qui faisait ses études il y a de ça pas mal d'années maintenant dans le domaine de la communication visuelle, qui avait son projet de fin d'études et qui proposait... Ah, c'est un peu capillotracté à l'époque. On se connaissait pas d'ailleurs, pas tant que ça en tout cas, pas suffisamment pour que j'intervienne, mais qui proposait des Macs noirs, des Macs sombres. Et à l'époque, il y avait des profs qui lui avaient répondu « Ah, mais jamais ! Tout est blanc chez Apple, ça changera jamais !» Alors ça me fait un petit peu rire avec du recul. Quelques regrets aussi, parce que sinon ce serait pas objectif, déjà que je suis peut-être un peu trop enthousiaste à toutes ces nouvelles. Juste pour dire qu'on a toujours pas le fucking multi-user sur iPad, et on peut comprendre pourquoi par certains aspects, mais on peut aussi être frustré par d'autres. Et puis, je sais pas pour vous, mais la sélection de textes, c'est toujours la merde au touch. Je trouve toujours ça, mais hyper compliqué. Alors, c'est pas le truc révolutionnaire, mais on s'en sert tout le temps, tous les jours. Et sur Android, j'ai la joie de voir que c'est le genre de chose qui tend à évoluer et qui va être amélioré. Donc, ça me frustre un peu. Mais bon, on pourra voir les choses venir plus tard. Est-ce qu'on a fait le tour pour cette formidable WWDC ou est-ce que vous aviez quelque chose que vous vouliez rajouter, Tom, Guillaume ?
Je crois que c'est tout.
Parfait. Et ben sans
doute. J'ai essayé Affinity Photo sur iPad Pro et c'est vraiment très très bon.
L'application qui a été présentée.
Je l'attendais depuis très très longtemps et même sur un 9.7, c'est impressionnant de fluidité, de facilité de faire certaines choses qui galèrent sur Photoshop parce que c'est une merde sans nom ce logiciel. Il va falloir qu'Adobe se réveille très vite. Hein.
Rappelle-moi d'ailleurs, c'est des usages de retouches photo, donc comparables à Photoshop, mais pas sur la partie création graphique, mais plus sur la partie traitement photo, on est d'accord ?
Traitement photo, création graphique, si, tu peux tout faire. Et puis là, avec la possibilité d'avoir tes fichiers de Dropbox ou d'autres drives à dispo avec Files dans iOS 11, tu vas vraiment pouvoir avoir une micro station de travail. Donc tu peux vraiment bosser. J'imagine que ça doit être super agréable de le faire avec un 13 pouces presque.
Excellent.
Hein. Si, c'est presque.
Moi, j'utilise beaucoup Pixelmator, que ce soit sur Mac ou sur iOS. D'ailleurs, je n'utilise plus la suite Adobe, mais j'utilise vraiment de plus en plus Pixelmator. Et je trouve que sur iOS, il y a des aspects qui sont un peu buggés, pas très fiables, parfois qui lâchent un peu. Donc, je vais peut-être tester Affinity Photo.
Ah là, Affinity, il est bluffant. Vraiment.
Bon, bah parfait. On passe donc à la rubrique suivante. Mais juste avant, on va faire un petit rappel quand même. C'est assez incontournable. Tipeee.com/tech-café. J'ai l'impression de me répéter énormément et pourtant, on me le dit assez régulièrement. Par les réseaux sociaux ou même parfois par mail, on me dit mais moi je pense que tu devrais plus le dire qu'il y a un Tipeee. Et ben je vous écoute et j'essaye de prendre pour moi cette remarque et d'essayer de faire un petit peu d'auto-promo. Si vous voulez aller contribuer financièrement, ça vous engage à partir de 2€ par mois pour pouvoir contribuer très concrètement financièrement au travail que je peux faire derrière Tech Café. Je vous propose qu'on passe à la rubrique qui est notée après dans le doc, mais qui me semble plus cohérente d'être traitée avant le en bref. C'est le 3. Alors, vous le savez, je suis pas un grand gamer, mais je suis entouré de deux experts du sujet, une personne qui ont forcément suivi tout ou grande partie de cette E3. Juste sur la partie matérielle, peut-être, j'ai l'impression que l'annonce, et vous allez sans doute pouvoir me compléter ou me corriger, l'annonce incontournable de cette E3, c'était la Xbox One, qu'il faut plus appeler Scorpio, mais la Xbox One X, qui est la console la plus puissante du monde jamais envisagée. Là encore, Tom, est-ce que tu veux nous en dire plus ?
Bah, on va le vendre comme ils l'ont vendu, hein. 4K, HDR, 6 teraflops, et allez vous racheter une télévision avec. C'est vachement joli. On se rapproche d'un PC, d'un bon PC quand même là. Bon, $500 quand même.
Ouais. Ça...
Donc c'est pas non plus. C'est déjà une bonne console. Hein.
C'est moins cher qu'un kit Oculus Rift complet. À noter oui. Au passage d'ailleurs une rétrocompatibilité annoncée si je me trompe pas sur y compris les jeux Xbox 360 voilà une rétrocompatibilité mais c'est pas plus que ça d'ailleurs il me semblait que c'était encore plus parce que 360 c'était pas annoncé
peut-être oui.
Guillaume est-ce que tu peux nous donner un peu ton sentiment sur cette machine de guerre et peut-être nous corriger ou nous compléter sur cet aspect rétro-compatibilité des jeux.
Alors la Xbox One X, ouais, bah oui, forcément, Aseti Cube, c'est vrai que c'est quand même Microsoft qui a été le seul à dégainer une nouvelle console, donc c'est quand même notable. Et bon, alors qu'est-ce qu'on peut en penser de la Xbox One X ? Alors évidemment, ce qu'on lit partout, c'est qu'elle est chère pour une console de jeux vidéo, ce qui est pas faux, ce qui est pas vrai non plus si on considère l'équipement,
ah oui, non,
parce
clair.
Que je veux dire, c'est quand même une console vraiment très puissante, et essayer d'avoir un PC qui a la même puissance avec $500, vous aurez, bon, bah, déjà vous l'aurez pas, et en plus, il sera beaucoup plus moche que la Xbox One X, qui est quand même plutôt jolie.
C'est vrai
que c'est une console qui est assez compacte, elle inclut comme la Xbox One S d'ailleurs, elle inclut l'alimentation en interne. Elle est un tout petit peu plus petite d'ailleurs que la Xbox One S, qui est une véritable prouesse si on considère qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Alors pour donner une idée, c'est une fois et demie une PS4 Pro. La PS4 Pro étant elle-même deux fois la PS4, et la PS4 étant on va être méchant, presque une fois et demie une Xbox One. Donc ça donne une idée du différentiel qu'il y a entre la Xbox One originale et la Xbox One X. Donc est-ce que c'est une machine puissante? Oui. Est-ce que c'est la plus puissante? Oui. Comme ça arrive assez souvent quand une nouvelle console sort.
Ouais, c'est ça.
Faut pas, voilà. Donc le truc, c'est que est-ce que pour autant est-ce que pour autant elle va se vendre? De l'aveu même de Phil Spencer, non.
Parce que, bon, c'est, oui.
Ils savent très très bien que la machine qui va se vendre le plus, qui est susceptible de se vendre le plus, c'est la One S à $300 et pas la One X à $500. Bon, moi, si tu veux, je suis partagé, parce que autant au niveau matériel pur, je trouve que c'est une machine qui est très jolie, élégante, très très puissante, qui clairement va permettre de jouer à des super jeux sur des écrans 4K, pas de problème. Mais c'est une console qui est clairement tombée, à mon avis, dans le piège du rendement décroissant. On avait déjà ça avec la PS4 Pro,
ouais.
C'est-à-dire qu'on double la puissance, mais le résultat à l'écran, il est pas deux fois meilleur, quoi. Si vous avez une télé normale en 1080p, déjà c'est vraiment pas clair que vous voyez la différence. Et si vous avez une télé 4K et que vous l'utilisez à une distance à peu près normale de 2 ou 3 mètres, la différence ne saute pas aux yeux. Ça sera un peu mieux, ça sera un peu plus joli, un peu plus fin, voilà, mais ça sera pas non plus incroyable, tu vois. La Xbox One X, elle a ce syndrome, mais en pire, en fait. En particulier si on la compare à la PS4 Pro. Parce que entre une Xbox One toute seule, qui est en 900p quand elle est en forme, et une Xbox One X sur une télé 4K, on peut voir une différence. Mais entre une PS4 Pro et une Xbox One X, c'est clair que les jeux, ça sera la même chose. Alors c'est vrai, il y en a un qui sera rendu en trichant un petit peu, en checkerboard, tout ça, bon, et l'autre qui sera rendu en full 4K, mais la différence visuelle, ça va être peanuts, faut pas se voiler la face, quoi. Donc la différence entre une PS4 Pro et la Xbox One X, ça va être $100. Du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident que la Xbox One X puisse se... Surtout avec les jeux qui ont été annoncés, quoi.
Hein. C'est clair.
Avec les jeux qui ont été annoncés, parce que finalement, les jeux qui ont été annoncés, c'est les mêmes que d'habitude. Il y a beaucoup de multiplateformes, donc on s'en fout. Enfin, je veux dire, les gens qui ont une PS4 ou une PS4 Pro, ils s'en foutent, quoi. Et les exclus, il n'y en a pas des masses, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y a eu quand même de très, très beaux jeux qui ont été montrés. Je sais pas, Tom, si t'as regardé, mais il y a quand même des jeux qui... envie, quoi.
Il y a des jeux qui font envie, mais ce qui me fait peur, moi, c'est que alors il y avait Forza 7 qui tourne en 4K 60 images par seconde, mais c'est pourquoi, parce que c'est une exclue aussi de Microsoft, mais les autres annonces qu'il y a eu pendant le salon, c'est de la 4K, mais c'est du 30 images par seconde, c'est ce que tu dis, c'est comme la PS4 Pro, malheureusement.
De toute façon, moi, je le dis depuis le début, hein, je pense que ça a l'air, enfin, en tout cas, c'est ce que je veux voir dans les tendances. J'ai l'impression que c'est ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que c'est une grosse connerie, hein, ces histoires de console mid-gen, c'est une grosse connerie. Parce que, globalement, on sort une nouvelle console, qui fatalement est plus chère que l'autre, et ça sert à quoi? Ça sert à, comme si t'étais sur ton PC, ça sert de passer de medium à high, tu vois, les presets.
Ouais.
Et je veux dire, tu vas racheter une console pour passer de medium à high. Tu vois, et en plus, le problème de ces trucs à la con, là, c'est que ça, tout ce que tu peux faire, c'est juste affiner l'image, globalement.
Oui.
C'est pas une vraie nouvelle console, donc les développeurs peuvent pas se lâcher et faire des vrais trucs avec beaucoup plus de physique, des IA beaucoup plus évoluées, des jeux des jeux vraiment différents, tu vois, des jeux qui utilisent différentes techniques. Non, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire le même jeu, plus fin. Mais on s'en tape du même jeu plus fin.
Oui.
Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt plus que ça, quoi. Je veux dire, oui, si t'as une télé 4K et que t'es blindé de thunes, écoute, tant mieux pour toi et achetez soit une Xbox One X. Mais le gros du marché, il s'en tape. Il suffit de voir ce que c'est que la Switch.
Eh oui.
Qui a une puissance graphique pourrie. Enfin, je veux dire, en comparaison de la Xbox One X, c'est peanuts une Switch.
Ouais,
et pourtant, la seule raison pour laquelle Nintendo vend plus, c'est que les stocks sont foutus, ils sont finis, quoi. Donc voilà, la Xbox One X, oui, c'est une belle machine, techniquement, c'est impressionnant, c'est une prouesse d'ingénierie d'avoir réussi à foutre aussi teraflop dans un châssis aussi fin, mais je pense que c'est juste une connerie, voilà, comme la PS4 Pro d'ailleurs, je pense que c'est une connerie, et j'espère que dans la prochaine, on aura des vraies nouvelles consoles d'ici 2-3 ans, et qu'on arrêtera cette espèce de truc d'ici nous faire racheter encore des consoles 3 ans plus tard, quoi. Ça, je trouve que c'est une énorme bêtise.
Bon, je pense que de toute façon, c'est peut-être. Alors là encore, hein, je parle avec beaucoup de réserve parce que vous connaissez mon faible investissement intellectuel, émotionnel et de veille sur le jeu vidéo. Mais quand même, j'ai tendance à penser. J'allais dire une bêtise, peut-être que si la console ne se vend pas, sans doute que c'est le consommateur qui va montrer qu'on n'a pas envie de ces intergénérations de consoles, et on a plus envie d'innovation ludique, j'allais dire, d'expérience ludique, plutôt que de puissance qui finalement ne se perçoit pas tant que ça. Et en même temps, est-ce qu'on a des chiffres de vente de la PS4 Pro qui iraient contredire ce que je viens de dire? Est-ce qu'on a une idée du volume qui aurait pu être vendu?
La PS4 Pro, elle n'a pas été produite elle n'a pas été beaucoup produite.
Donc ça reflète.
Je pense qu'elle est sold out là. Mais elle n'a pas été produite à énormément d'exemplaires. Sony s'attend pas à en vendre des millions. Et d'ailleurs, Phil Spencer a dit que, il a dit un truc très rigolo d'ailleurs. Il a fait une grosse blague. Il a dit que la Xbox One X n'était pas en concurrence avec la PS4 Pro et que la PS4 Pro est en concurrence avec la Xbox One S. Ouais. Alors ça, c'est, je sais pas d'où ils sortent ça. Enfin bon, ils ont sorti une console 4K, PS4 Pro, c'est on l'appelait la PS4K à l'époque. Tu sais, ils sont exactement sur le même secteur, mais non, ils sont pas du tout en concurrence, bien sûr que non. Mais bon, voilà. Il a dit lui-même que l'Xbox One X était une machine sur laquelle il ne gagnerait pas d'argent.
D'ailleurs, ils vont le vendre à perte apparemment.
Il le vend à perte carrément.
Ah ouais, j'ai vu une news passer aujourd'hui. Apparemment, elle est vendue à perte.
Ouais, ça explique pourquoi ils ont réussi à foutre autant de puissance dans un truc aussi.
Pour 500 balles.
Voilà, donc si vous trouvez que c'est cher, bon ben réfléchissez-y à deux fois quoi. Après, c'est pas parce que c'est pas cher pour le truc que bon voilà que c'est utile. Moi, je pense que c'est pas voilà. Et le truc, c'est qu'il faut pas croire que je dis ouais la puissance ça sert à rien. C'est pas vrai. La puissance ça sert. Depuis le début du jeu vidéo. Les développeurs ont réussi à chaque fois qu'il y avait un saut de génération à faire des jeux qui valaient, enfin qui justifiaient le différentiel de puissance. Et ça, tout.
Ah bah oui.
Mais le truc, c'est que de la puissance en plus pour faire, par exemple, de la VR super super canon, ben c'est intéressant. De la puissance en plus pour passer de 1080p à 4K, ben tout de suite c'est pas aussi spectaculaire, quoi. Ouais. Tu vois. Et on peut se demander si ça vaut le coup d'upgrader. C'est tout.
Alors, je pense que clairement non.
Bon, alors le conseil est donné. Si jamais vous hésitiez, faudra arrêter d'hésiter en écoutant cet épisode. Par contre, donc ça c'était plus sur l'aspect, on va dire, technologique et matériel. On peut pas quand même parler de l'E3 en ne parlant que de la technologie de l'Xbox One X et de la stratégie marketing et technologique de ces sociétés-là qui nous proposent ces formidables machines. Mais on peut quand même faire un petit tour du côté de l'aspect purement ludique. Une fois n'est pas coutume, Tom, Guillaume, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'annonces sur les jeux et sur ce sur quoi on va se divertir pendant les mois et les années à venir? Tom, encore une fois, peut-être.
Ah, Tom d'abord, d'accord.
Oui, parce que, alors bon, évidemment, comme il n'y aura peut-être pas beaucoup de montage pour vous corriger tout ça, je ne sais pas, j'ai des coupures qu'entendent Tom et Guillaume, et du coup, il y a des blancs, et donc, parfois, ils ont du mal à pouvoir rebondir comme il le faudrait, mais comme ils sont pros, ils y arrivent toujours. Alors, Tom.
Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu que la conférence d'EA, c'était une conférence bien triste. La conférence de Bethesda, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y avait Doom, il y avait Fallout en VR.
Ouais.
Alors, j'espère qu'ils seront fournis avec des sacs à vomi parce que.
C'est ça. J'ai écrit, c'est sponsorisé par Spacefond parce que, sans déconner, Doom en VR.
Attends, Doom sans VR, déjà, des fois, t'as du mal parce que c'est très rapide. Mais alors là, en VR, mais moi, je m'y refuse.
Je vais essayer. Pas longtemps, mais je vais essayer, quoi. C'est
Mais tu vois, c'est ça qu'on nous vend, c'est ça qu'on nous a vendu avec la PS4 Pro et la Xbox One X, c'est que ça irait avec la VR. Et c'est toujours pas là. C'est toujours pas là et ce sera pas là l'année qui vient. Donc,
arrêtez de
donc c'est vachement bien tout ça, mais arrêtez de gonfler les machines. Il y a pas ce qui va derrière. Tu vois, c'est comme avoir un super moteur, mais tu peux le foutre sur aucun châssis parce qu'il y a aucune bagnole qui résiste. C'est con.
Tout à fait.
C'est con, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a plein de trucs. Aujourd'hui la VR, bah c'est encore pas ça. Hein. Tu regardes le nombre de jeux qui sortent sur PS Pro, PS4 Pro ou n'importe quoi. Le casque PSVR, il prend la poussière chez les gens.
Aïe.
Ouais, c'est dommage d'ailleurs. C'est très très dommage. En même temps, je sais pas beaucoup de gens parce que je crois qu'il est lui aussi en rupture de stock et que c'est très difficile.
Ouais, mais parce qu'il a peut-être pas été produit sous des quantités complètement dingues non plus. Ils sont pas fous les mecs, non?
Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est un test.
Guillaume,
aussi.
Justement, qu'est-ce que t'as relevé, toi, de l'aspect vidéoludique de l'E3 qu'est-ce que t'as retenu en jeu vidéo?
Tom a certainement pas terminé, mais moi je rejoins Tom sur le fait que c'est quand même sympa que Bethesda essaye des trucs en VR, donc il y aura Fallout aussi en VR, le 4, ça peut être vraiment pas mal, c'est un petit peu plus plan, et puis c'est assez immersif, et puis il y a cette espèce de truc, tu sais, tu peux construire, tu peux faire du housing, tu peux construire ton refuge et tout, ça peut être vraiment rigolo ça avec des contrôleurs VR, donc ouais, je trouvais que c'était plutôt sympa. J'ai aussi remarqué que Minecraft allait découvrir les shaders, ça y est, de manière officielle. Youpi! On est en 2017 quand même, hein, et Minecraft découvre le shader. Tu sais, les ombres, les lumières, l'eau qui ressemble à de l'eau, des trucs comme ça. C'est bien. C'est des trucs qu'on fait depuis 5 ans avec des mods. Mais là, ça va devenir officiel. C'est plutôt cool. En plus, ça devient cross-platform. Donc ça, c'est pas mal.
Ouais. Sauf sur PS4.
Oui, c'est ça, sauf
parce que Sony a dit qu'il voulait protéger les jeunes qui jouaient parce qu'ils pourraient peut-être tomber sur des trucs bizarres. Alors là, il faut m'expliquer quand même, parce que même Nintendo, il est monté dans le bus.
Mais je sais pas, tu sais, les mecs, ils jouent sur Xbox, ils sont chelous.
Ça doit être ça, je sais pas, ils doivent, tu sais, avec des cubes, ils doivent faire des dessins de bits toute la journée dans des maps Minecraft. Et je pense que Sony a eu très peur. Moi, je pense que ce qui s'est passé surtout, c'est que Microsoft n'a pas aligné assez d'argent et Sony a dit fuck. Mais c'est une décision assez étrange.
Mais d'ailleurs, je suis en train de me poser la question de l'avenir de Minecraft sur les consoles Sony quand même. C'est une question qu'on peut se poser. C'est quand même Microsoft qui drive. Bon, là, je sais pas à quel point ça va rester.
Rocket League n'est pas cross-platform non plus sur PS4.
Donc Sony
n'est pas étranger au fait de ne pas vouloir avoir un peu de fun avec les autres.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi j'ai trouvé, t'avais dit que c'était BioWare, c'était Electronic Arts, Anthem.
Oui.
Il déchire quand même, hein, il a l'air de bien déchirer celui-là.
Ouais, il a l'air de bien déchirer, c'est beau, c'est un mix de pas mal de jeux. Ça explique peut-être pourquoi le dernier Mass Effect a été une sombre merde comme il l'a été. Ils ont peut-être mis tout l'argent ailleurs pour faire du dev, mais non, ça promet. Et c'est vrai que ça, par exemple, sur One X, ça a l'air vraiment très très beau. Mais bon.
Ouais, mais pour le coup, c'est multiplateforme, tu vois.
Eh oui.
C'est dommage. Hein.
Eh oui.
Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas réservés un truc comme Anthem pour le pousser au maximum? Ça aurait été idéal. Mais bon, tu vois, là encore, la connerie de la One X, quoi, c'est que même s'ils avaient fait ça, ils auraient dû faire en sorte que le jeu soit aussi jouable sur One.
Eh oui.
Donc il aurait fallu que ça scale un maximum, et ça aurait été un chiant, quoi.
Et là, c'est mort.
Toujours est-il que tu as lu, enfin, tu as écrit Nintendo, apparemment, il a volé le show pour toi. Et je dois avouer qu'ils sont super forts, hein, parce que honnêtement, moi, quand j'ai entendu Super Mario Cross Lapin Crétin, je me suis dit, mais jamais.
Et en fait,
et là,
c'est extraordinaire.
Alors décrivez.
Et là, et le mix. Ben, c'est XCOM avec des lapins et
ouais.
Mario. Mais tu sais que, attends, j'y crois pas, mais j'ai envie d'essayer,
d'y
jouer.
Moi aussi, je l'ai précommandé, hein, oui, j'ai honte. Mais voilà.
C'est vrai.
Ouais, je mets carrément.
Ouais, mais voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il a l'air marrant comme tout, quoi. Et même profond, quoi. C'est impressionnant.
Les gens qui ont joué, apparemment, les premiers retours sont aussi, aussi fous que ça. Mais c'est vrai que pour moi, Nintendo a pas volé le show, mais ils continuent. Ils se sont réveillés, ils ont eu leur sursaut et ils se sont tapés la honte avec la Wii U. Et là, ils sont sur un rythme. Tu as un gros jeu qui sort par mois, si c'est pas plus. Et ça va continuer comme ça pendant encore très longtemps. Et j'avoue que la Switch, malgré cette toute petite puissance toute pourrie en comparaison des autres, bah c'est la console que j'utilise le plus ici. En tout cas, que ma famille utilise le plus aussi.
Donc tu pourrais utiliser le plus en mobilité
de fou
aussi, d'ailleurs.
Mais c'est ça, en fait. C'est enfin, voilà, Minecraft, j'y ai joué en long, en large et en travers. Ils me refont une version sur Switch. Et je perds encore ma vie sociale à cause de ce jeu, parce que je l'ai en mobilité. C'est juste fou, et la magie Nintendo opère, et ça repart à chaque fois. Le nouveau Mario, mais il a l'air juste incroyable. Il a l'air incroyable, nouvelle mécanique de jeu, ils introduisent plein de... Tu peux prendre possession d'objets, de personnages. Au début, tu te dis, mais what the fuck? Et quand tu commences à voir les niveaux, c'est du grand Nintendo. Mmh. C'est un peu comme le Zelda, tu sais, c'est mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis quand tu l'as dans les mains, tu t'aperçois d'un jeu avec une profondeur incroyable et tu perds des heures, des dizaines, des centaines d'heures dans ce truc-là. Et puis bah je pense qu'ils ont commencé, ils commencent à écouter les gens. Finalement, on va avoir deux Metroid. On n'a pas eu de Metroid pendant 10 ans. On va avoir un remake du second Metroid sur 3DS. Et on a un Metroid Prime 4 qui arrive sur Switch, sans doute l'année prochaine, j'espère. Nintendo commence à... Il se réveille. Et il y a pas mal de petites choses qui arrivent. Et c'est toujours très sympa. Alors oui, Bethesda a encore ressorti une énième version de Skyrim. Mais merde, Skyrim en mobilité, bah... un côté sexy qui me tente, tu vois. Et puis en plus, le skin de Link, je sais pas si tu as vu ça, Guillaume.
Oui, j'ai vu ça.
Ça paraît tellement ridicule, mais j'ai tellement envie d'essayer.
Mais tu sais qu'avec le générateur de visage de Skyrim, à mon avis, c'est effrayant en fait. Hein. Il doit être flippant lui. Hein.
D'ailleurs, on voit pas son visage.
Mais c'est nous, on sait pourquoi.
c'est simple, hein. Moi, quand je vous vois parler de toutes les annonces, j'ai tendance, alors peut-être que je suis influencé par ce que vous dites ou parce que j'ai vu aussi des choses qui vont dans le même sens. Peut-être que j'ai une bulle qui me déforme la réalité. Mais effectivement, si je devais clairement acheter une console aujourd'hui, ce serait une Switch, ça c'est clair. Et en plus, quand je vais regarder, il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil sur Amazon. Vous allez voir le top des ventes dans le domaine des jeux vidéo. Je sais pas comment exactement c'est classé, hein, donc c'est peut-être à prendre avec des pincettes, mais top 1, c'est les précommandes de Mario Odyssey. Top 2...
Oui, je suis dedans.
Top 2, ARMS. Top 3, la Nintendo Switch. Donc ça veut dire qu'ils mixent jeux vidéo et console et que c'est non pas la console la plus vendue, mais c'est aussi le troisième truc le plus vendu sur Amazon en France aujourd'hui, c'est la console Nintendo Switch. On a ensuite Mario Kart 8, on a ensuite Zelda, on a ensuite Mario et les Lapins Crétins. Et pour sortir de Nintendo, il faut arriver quand même à la 7e place pour arriver à avoir Crash Bandicoot sur la PS4, et ça continue encore avec Splatoon sur Switch. Et quand je regarde ça d'un œil extérieur, je suis peut-être très influencé par plein de choses, il y a peut-être plein de choses que je ne vois pas, mais j'ai quand même l'impression que la Switch, derrière le teasing de malade qu'on a pu faire d'ailleurs inconsciemment dans Tech Café au fil des épisodes, jusqu'à l'annonce qui a été... curieuse, parce que d'un côté, ça a été finalement assez décevant d'un point de vue technologique, d'un point de vue puissant, surtout quand on nous vend du pro, du sur-teraflop en veux-tu, en voilà. On a finalement une console qui se veut vraiment différente. Et bah, du coup, finalement, ça marche. Est-ce que ce serait pas le grand gagnant, effectivement, de l'univers du jeu vidéo, Nintendo? Est-ce que vous tirez votre chapeau avec des yeux et une moustache, vous aussi, en conclusion?
Oui.
Alors, ben moi,
nuancé. J'adore.
Le truc. Comme on dit, ouais, nuancé. Ben oui, parce que bon, Nintendo, le truc, c'est que de mon point de vue, Nintendo a pas volé le show. C'était juste un acteur qui a compté autant que les autres, pour malgré le fait qu'ils aient eu une machine qui ne joue pas du tout dans la même catégorie, puisqu'évidemment, Sony et Microsoft ont aligné des jeux en 4K, en veux-tu, en voilà, et c'est pas forcément un mal, si tu veux. Enfin, je veux dire, les jeux sur Xbox One X, ils ont l'air magnifiques. Les jeux sur PS4 Pro ou pas Pro, d'ailleurs, ils ont l'air cool. Et il y en a plein, d'ailleurs. Enfin, il y en a plein que je parlais d'Anthem tout à l'heure. Mais il y avait aussi le prochain Assassin's Creed qui a l'air vachement sympa. Il y a le remake de Shadow of the Colossus qui, moi, personnellement, me file envie d'acheter une PS4. D'ailleurs, depuis la sortie de Last Guardian, j'ai eu envie d'acheter une PS4. Donc, tu vois. Donc, bon, il y a quand même des jeux qui sont vraiment très cool. C'est juste qu'il y a une forme de vraie complémentarité entre l'ambiance Nintendo, tu vois, le monde de Nintendo, et les autres constructeurs. En plus, c'est vrai que Nintendo, bon, ben voilà, quand ils font un jeu, ils essaient de le faire bien. Tu vois, l'exemple des Lapins Crétins et Cross Mario, là, c'est typique. Moi, je m'attendais à un jeu de commande plus ou moins pour les gamins, un peu pourrave. Et en fait, quand ils font un truc, ben, ils essaient de le faire bien. Du coup, bah, ils ont un jeu avec une certaine profondeur, et voilà, tu vois, et c'est pareil pour ARMS. ARMS, c'est un jeu où t'envoies des points rigolos sur la tronche des autres, en face, bon, ça a l'air complètement... c'est très accessible tout ça, mais il y a quand même une certaine profondeur, le jeu est quand même... Il essaie de faire les trucs bien, tu vois, donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Après, il y a quand même un truc qui, moi... je suis pas complètement persuadé, si tu veux, parce que la Switch, c'est vrai que c'est cool, super, bon, mais... les jeux qu'on a vus, c'est pratiquement que des jeux de Nintendo. Il y a très peu de jeux et des tiers sur la Switch. Et pour l'instant, Nintendo arrive, si tu veux, à alimenter sa console comme il faut, tout ça. Mais ça me rappelle quand même un petit peu le line-up, et surtout les sorties qui étaient exclusivement Nintendo aussi sur la Wii U. Donc là, c'est sûr, il y a une nouveauté, tout ça, c'est super. Mais j'espère quand même qu'à un moment donné, on verra des tiers mais sur la Switch.
Parce on là, peut que l'espérer parce que ça étoffe un écosystème.
Il y en a qui arrive.
Et ça va arriver, d'ailleurs, ça va être annoncé. Mais finalement, si jamais, je caricature la réalité comme plein de fois, mais imaginons que la Switch, il y ait que des jeux Nintendo, mais que finalement, ces jeux, comme aujourd'hui, ils suffisent à rythmer les besoins des joueurs suffisamment pour vendre beaucoup de Switch. Bah finalement, est-ce que ça suffit pas? Est-ce que finalement, oui, on a envie en tant que consommateur d'avoir plein d'alternatives
Il faut qu'elle atteigne une masse critique. Si tu veux, il y a toujours cette histoire de masse critique pour attirer les tiers. Est-ce que la masse critique a été atteinte? Bon, pour l'instant, non, mais elle va, si tu veux, si la dynamique continue, elle va probablement être atteinte. Donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, tu vois, les gros jeux qui tapent un peu chez les autres constructeurs, ils sont pas sur Switch pour des raisons.
Ouais, bien sûr.
Souvent. Mais. J'espère que ça va pas l'handicaper rapidement. Pour l'instant, pas de problème, c'est la lune de miel. On va dire ça. Bon, j'espère que ça va continuer. Moi, c'est ce que je sais sur la Switch.
Quand je fais j'essaie de faire des comparatifs sur des choses que j'ai le sentiment de maîtriser un petit peu mieux. Si on pense par exemple à l'univers du smartphone et des écosystèmes, des plateformes de smartphones, on avait effectivement Windows Phone. Moi, j'ai entendu à une époque les gens encenser, probablement à raison d'ailleurs, la philosophie de l'OS, le fait que c'était intégré, le fait que c'était différent, le fait que les usages étaient quand même pas les mêmes que sur d'autres smartphones, mais que c'était très convaincant pour plein de consommateurs. Au final, ça n'a pas attiré ça n'était pas suffisamment pertinent pour attirer les développeurs tiers. Et finalement, on s'est rendu compte que Windows Phone est mort principalement à cause de ça. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce que c'est ce type de parallèle que tu as en tête, Guillaume, qui te ferait craindre le fait que la Switch pourrait ne pas survivre
Dans une moindre mesure. Je pense que si tu veux, le Joker de la Switch. C'est le fait qu'elle soit portable, c'est-à-dire qu'en fait, même si elle n'est pas considérée vraiment comme une console de salon à terme, parce que en face des autres consoles de salon, elle n'est pas le poids, tu pourras toujours dire que c'est quand même la plus belle et la plus puissante de toutes les consoles mobiles. Tu vois, donc ça pourrait la sauver. Je pense que même ça sera ça d'ici 2-3 ans, ça risque d'être ça. Enfin bon, je sais pas ce que tu penses, toi.
Alors. Déjà, je pense qu'on est sur c'est une autre histoire que la Wii U. Simplement parce que dans sa première année d'existence, c'est une console qui va déjà recevoir un Mario nouveau, qui a reçu un Zelda nouveau, qui a une nouvelle IP, qui est ARMS.
Qui a volé un Zelda, tu veux dire.
Ah, qui a volé un Zelda, mais quel Zelda? Le Zelda Wii U est arrivé trop tard, beaucoup trop tard. Il fallait qu'il arrive avec... Chaque nouvelle console Nintendo se doit d'arriver soit avec un Zelda, soit avec un Mario, sinon ça se passe pas bien. Faut pas oublier non plus que c'est pareil, un autre truc qui est un autre jeu excellent qui est arrivé, mais beaucoup trop tard aussi sur Wii U, c'est Splatoon. Moi, Splatoon, ça a été une... Je vous jure que c'est une claque. C'est du co-op et c'est addictif, c'est incroyable. Les gamins peuvent y jouer, les adultes aussi. Là, il y a un mode solo, il y a un mode horde dans le 2 qui va sortir d'ici 2 mois. Je pense qu'on est sur une autre courbe ascendante par rapport à la Wii U. Il y a Rocket League qui arrive. On a bien ou mal, on a Skyrim, on a Monster Hunter qui va arriver. On a Xenoblade, on a quand même pas mal de choses qui arrivent dans la première année, et demie de la console. Et ça laisse présager du meilleur. Donc, j'espère.
Je suis d'accord. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Là, c'est clair que la dynamique, elle est meilleure que celle de la Wii U et que je pense qu'elle se vendra beaucoup mieux que la Wii U. Après, je sais pas si elle se vendra autant que la Wii.
Ah oui. Disons que pour l'instant, il faudra qu'ils arrivent à 110 millions. C'est chaud.
C'est peut-être pas l'objectif.
À force de, une petite nouvelle version dans 2 ans, une Switch Lite.
Ça doit être clairement dans les cartons.
Sinon, un truc qui continue à m'énerver, moi, et un constructeur qui m'énerve de plus en plus, et c'est malgré tout, c'est mon chouchou, c'est Sony. C'est Sony qui veut pas se marier aux autres, c'est Sony qui fait des démos de jeux qui vont sortir dans un an, c'est Sony qui promet des choses, et on voit jamais rien. Et tous les E3, c'est la même chose. T'as rien de concret. T'as jamais rien de concret. Là, aujourd'hui, tu vois, par exemple, quand je dis que Nintendo vole le show, c'est que Nintendo, ils ont des trucs et ils ont des dates de sortie. Sony a pas de date de sortie. Il a des remakes. Shadow of the Colossus, moi, ça me rend fou, j'ai envie d'y jouer. Il est magnifique. Mais à nouveau, c'est un remake. Il n'y a pas de truc fort qui va sortir cette année où on nous montre à nouveau des trailers qui font baver, mais bah, on ne sait pas. Ça sortira en 2018. Bah, 2018, c'est pas encore arrivé. C'est long, 2018. Donc, je commence un peu à être énervé par ce teasing permanent. Je préférerais pas savoir et qu'on me dise, bah, tiens, dans 6 mois, il y a ça qui sort. Là, au mois d'octobre, j'attends avec impatience Mario. Je sais qu'il sort. Je sais qu'il existe. C'est pas une fausse promesse comme on me l'a fait toujours avec souvent malheureusement Microsoft et Sony où ça va sortir au mois de janvier et puis on le recule de 6 mois et puis on le recule de 8 mois puis non finalement ce sera l'année prochaine. Je commence à être fatigué par ce genre d'attitude. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule contre ces trucs. On nous fait baver mais on n'a pas grand chose finalement. Et finalement, je vais conclure, le meilleur jeu qui soit passé avec Mario Odyssey devant mes yeux, c'est Dragon Ball Fighter Z, qui est juste absolument incroyable et bluffant. Ça fait 20 ans que j'attends un Dragon Ball Z de combat en 2D. Alors, c'est pas de la 2D, hein, c'est de la 3D en cel shading, mais c'est sur un plan 2D. Et c'est juste extraordinaire. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est dynamique, c'est...
Je l'ai pas vu, mais alors par contre, j'ai vu énormément de personnes dans mon écosystème social qui a été aussi bluffé par Dragon Ball. Guillaume, ce sera le mot de la fin, tu réserves aussi ou pas?
Alors, je vais peut-être surprendre tout le monde, mais je fais partie de ces rares 30-40-tenaires qui n'ont pas vu Dragon Ball quand ils étaient jeunes.
C'est pour ça que t'es encore quelqu'un d'équilibré et qui a des...
Ok, merci. Ouais,
parce que moi, je me mets dans la catégorie de ceux qui l'ont regardé et je l'ai même re-regardé il y a, bon, je ne sais plus exactement, mais il y a moins de 2 ans, j'ai fait Dragon Ball.
Non, mais attention, je ne juge pas. D'ailleurs, c'est... Attention, je ne juge pas, je dis je ne l'ai pas vu.
Oui.
J'ai lu un petit peu les mangas il y a quelques années pour savoir un petit peu ce que c'est, et c'est plutôt sympa. Mais quand j'étais petit et que j'étais dans la cible, on va dire, c'était vraiment la cible shonen pure, je l'ai raté malheureusement. Du coup, ça me parle beaucoup moins. Je l'ai vu néanmoins, et je dois avouer que oui, graphiquement, c'est incroyable, hein, c'est le dessin animé total, quoi. C'est vraiment très très fort. Bon, voilà, je comprends très bien qu'on puisse aimer, attention, il n'y a pas de souci, c'est juste que moi, il y a des choses comme ça, qu'est-ce que tu veux, on n'a pas vu ça. Et je vais même faire, c'est coming out, et je n'ai pas non plus vu les Chevaliers du Zodiac à l'époque. Voilà.
Alors, si vous voulez faire une bonne action, vous achetez une petite clé USB de 64 Go, vous envoyez tous les épisodes des Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball Z.
64 Go, ça va suffire, c'est pas sûr.
Ah, je pense si, quand même. Et puis, tu regarderas les versions dérivées avec les autres doublages français qui existent sur YouTube aussi.
Merci. Le plus rigolo dans tout ça, c'est que maintenant, je regarde des animés. De temps en temps, je regarde des animés. Je trouve ça plutôt cool. Mais à l'époque, la période shonen, j'étais pas dedans, quoi. C'est marrant. Hein. Donc, quoi.
Si vous aimez les animés, Netflix en est absolument plein.
Ah oui, pour
profitez-en.
Le faire, effectivement. Ouais, tout à fait. Ça ressemblerait presque à un bonus. Mais avant de passer au bonus, il faut passer à la rubrique en bref, qu'on va essayer de traiter de manière brève, si possible.
Désolé.
Non, mais il n'y a pas de message caché. On va commencer parce qu'on en avait parlé. On avait dit qu'il arriverait. L'Essential Phone et l'Essential Home, puisque c'est pas que le smartphone qui a été présenté par Andy Rubin, cette espèce de papa d'Android, mais également une station d'accueil. Juste un mot peut-être pour le smartphone, et je vais laisser la parole juste après à Guillaume. Je crois que c'est toi qui avais complété pour l'Essential Home, si je dis pas de bêtises. Mais pour le smartphone, il y a quand même 2-3 trucs à noter. Il a l'air vachement bien dans ses specs. Bon, les tests photos ont l'air à chier, mais ça doit pouvoir se corriger corriger après avec des mises à jour, on espère pour eux. La philosophie, c'est d'avoir quand même un smartphone haut de gamme. Il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est juste le fait de dire bah nous on mettra pas de logo dessus. C'est con, mais j'ai trouvé ça assez malin en termes de présentation de produit. Et puis juste bah c'est vrai, c'est le smartphone, vous allez pas avoir besoin d'avoir une coque pour le balader avec vous, parce que s'il tombe, comme il est en titane, eh ben il résistera à tous les chocs, contrairement au smartphone des concurrents. Voilà, sinon il y a pas grand chose à en dire, et c'est pas non plus la révolution du smartphone. Il est beau, l'écran est grand, c'est du bord à bord, c'est chouette,
oui,
mais
grand, oui.
C'est pas forcément non plus révolutionnaire. La station d'accueil, tu voulais en toucher un mot peut-être, Guillaume?
Ben oui, alors voilà, parce que c'est vrai que l'Essential, en fait, c'est une sorte d'écosystème, et il va y avoir un assistant, je sais pas comment on peut dire, un assistant domotique, voilà, je sais pas, un assistant domestique, un petit peu dans le goût de Alexa et compagnie, et voilà, tout le monde, hein, c'est un petit peu la même chose, sauf que celui-là aura un écran, ça se présentera sous la forme d'une espèce de petit cylindre,
c'est bon,
un petit peu biseauté, avec un écran circulaire, et donc il offrira des services un petit peu analogues à Google Home et compagnie, hein, donc voilà, jouer de la musique, évidemment il répondra à la voix, il sera capable donc de à peu près de répondre à vos questions, tout ça. Il sera capable aussi d'afficher des informations, de commander des appareils connectés, des lampes, bon, ouais, des trucs comme ça dans votre maison, et il aura une idée du contexte, si tu veux, et il sera capable de spontanément t'afficher des informations pertinentes en fonction du contexte, par exemple si tu dois partir au boulot et que t'es en retard, il va te gueuler dessus, ce genre de truc, je suppose, et voilà, donc ça peut être plutôt plus ou moins intéressant. Il y aura un OS qui s'appellera Ambient OS qui tournera dessus. Et bon, évidemment, un des selling points, c'est la vie privée, puisqu'apparemment, le truc va traiter le maximum de choses en local pour limiter les allers-retours dans le cloud. Mais bon, vu le service, il est clair qu'il va en faire quand même beaucoup. Donc je suis pas vraiment certain que ce soit aussi important que ça. Donc voilà, je sais pas à quel point les deux, c'est-à-dire le téléphone et l'Essential Home pourront faire des choses particulièrement intéressantes, mais parce que ce truc n'est pas encore sorti en fait, hein, à la différence du téléphone, elle n'est pas encore disponible. Ça viendra d'ici quelques semaines.
Il y a un truc en tout cas. Il est effectivement très chouette. Juste avant de te laisser nous conclure, savoir si toi, Tom, ce serait un truc que t'achèterais ou pas. Ah, j'ai une idée. Il y a quand même un truc sympa que j'ai pas détaillé. C'est le fait qu'il puisse être commercialisé avec des accessoires qui sont prévus pour, notamment par exemple une caméra 360 que vous allez pouvoir clipser dessus. Mais en fait, c'est peut-être la meilleure manière que j'ai vue, même s'il y a des interrogations et des défauts à ça, de proposer un écosystème smartphone plus accessoire, c'est qu'en fait ça s'aimante. Par exemple, la petite caméra peut s'aimanter à un endroit à l'arrière du smartphone, se clipser, ce qui fait qu'il n'y a rien à attacher. Alors ça pose vraiment des questions, parce que comment il est alimenté, est-ce que ça veut dire qu'il faut le recharger à part, etc. Mais j'ai trouvé ça quand même assez malin. Tom, grosso modo, pour toi, c'est la révolution, l'Essential Phone, comme c'était prévu d'être une révolution, ou...
Non, le téléphone, non. Bah, le home, oui, par contre, c'est assez joli. Si ça fonctionne avec un iPhone, si ça pouvait être compatible. Ouais. Un téléphone, tu sais, maintenant, je suis vieux, je suis habitué à iOS. Donc,
ouais, la révolution changer. N'est clairement pas là. Bon,
non.
Les puces maison, justement, on parle des iPhones, ça fait belle lurette qu'Apple a ses propres puces maison. Est-ce qu'on va bientôt voir des puces custom chez Google aussi, Guillaume?
Ben, c'est possible, parce que Manu Gulati, qui était donc le mec qui s'occupait des puces custom chez Apple, vient d'être engagé par Google. Ah. Donc Apple vient de prendre paire de ses principaux architectes à ce niveau-là. Et le Google lui a volé. Alors pourquoi faire? Bah évidemment, c'est probablement la même chose que chez Apple, mais chez Google. Donc il n'est pas impossible que dans les années à venir, on voit des puces spéciales, enfin des puces vraiment customisées à l'image des A7, des A6, A7, donc les puces qui sont dans les iPhones et les iPads, mais pour les Google Pixel et éventuellement les autres produits de la marque. Voilà, ce serait relativement logique finalement. Jusqu'à présent, Google s'appuie sur Qualcomm. Bon, peut-être que bientôt ils auront leur propre puce comme Apple. Voilà, wait and see.
Est-ce que autant d'éléments d'une puce autant d'éléments caractéristiques d'une puce peuvent être concentrés, entre guillemets, et je m'exprime peut-être pas très bien, dans une personne. Je m'explique, on recrute une personne.
C'est l'architecte.
Ah, d'accord.
Oui, pardon.
Non, mais c'est ça, oui, c'était c'est la clair, question. C'est...
Le mec a déposé un certain nombre de brevets, il a déposé une quinzaine de brevets sur les systèmes on chips. Quand il était chez Apple, donc un petit peu tous les niveaux, mais c'est vrai que c'est plus l'architecte, quoi, on va dire, le chef d'orchestre.
Donc ça veut dire quand même qu'une bonne puce, c'est encore une fois, c'est un peu réducteur peut-être comme question et peut-être un peu débile, mais une bonne puce peut tenir au savoir-faire et aux compétences d'une personne.
Bah, il y a des grands choix stratégiques, si tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu, quand tu fais une puce, comme c'est quand même un tas d'éléments différents, que chaque élément doit interagir avec les autres, que chacun a, comment dire, une fonction, et tu vois, peut, au final, aboutir à une expérience utilisateur différente, tu vois. C'est, par exemple, est-ce que dans ta puce, est-ce que c'est important pour toi d'avoir un petit machin qui est dédié, une petite partie, qui est dédiée à l'écoute des mots-clés? Par exemple, pour dire Google, oui Siri, ou enfin dis Siri, ou OK Google, tu vois. Ça, c'est un choix. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas?
Moi, oui, personnellement, mais.
Tu vois, ou alors est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un petit morceau de pupus qui s'occupe de savoir si ton téléphone est dans la poche, de compter les pas, ce genre de truc, tu vois. Ou est-ce que tu préfères avoir une grosse partie graphique, la partie graphique comment tu la veux, est-ce que tu veux qu'elle puisse traiter, par exemple, les photos, est-ce que tu. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être vraiment, tu vois, pareil. La décision de passer au 64 bits, par exemple, ils sont en train de ne pas le faire. C'est une décision. Ils ont pris cette décision pour le futur, tout ça, un petit peu en avance. Bon, maintenant, ça marche très bien, tu vois, mais c'est pareil, la puce, est-ce que tu veux que ce soit une grosse puce qui soit très polyvalente, tu vois, mais qui est un peu fat? Ou est-ce que tu veux plusieurs petites puces plus simples, tu vois, mais plus difficiles à exploiter, mais quand tu les exploites bien, c'est plus rapide, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être décidées, quoi.
Ça répond à la question. On continue d'ailleurs avec la chronique des composants dans ta café, X86 sur ARM. Guillaume, on a du nouveau.
Non, mais alors ça, c'est un follow-up, parce écho. Que j'avais parlé, oui, ça fait écho tout à fait à ce qu'on avait dit sur la sortie des prochains ordinateurs portables équipés de puces Qualcomm, donc sur des puces ARM, qui donc sortira sous Windows 10 et qui exécuterait toutes les applications Windows comme un PC normal, bien qu'elles ne soient pas Intel.
Et on disait donc qu'Intel aura peut-être du souci à se faire.
Et on disait effectivement qu'Intel a du souci à se faire. Alors du coup, comme disait... un autre comparse, qu'est-ce que fait une entreprise qui se sent un petit peu menacée, elle se transforme en troll. Ça a pas raté, hein, puisque il semblerait qu'Intel ait écrit une tribune. Alors, c'est pas une menace, mais quand même, Intel se plaît à rappeler qu'il y a déjà d'autres sociétés qui ont émulé du X86 et que ça a pu mal se terminer, parce que tu comprends, les brevets, on rigole pas avec ça. Et Intel défendra bec et ongle sa propriété intellectuelle s'il y a lieu. Pof, pof, pof. Voilà, maintenant démerdez-vous. Bon, donc ça veut dire que grosso modo, même s'ils risquent de perdre, et que probablement ils vont perdre parce qu'il n'y a rien d'illégal dans l'émulation d'une autre architecture, ils peuvent quand même emmerder copieusement Microsoft et Qualcomm là-dessus, et éventuellement même les constructeurs et les distributeurs de ces futurs PC. Donc il est possible que une guerre ouverte puisse éclater entre Microsoft et Intel dans les prochains mois.
En fait, les mecs ils boudent, quoi. C'est trop drôle, les mecs ils boudent. Parfait, on enchaîne avec peut-être l'objet que vous utilisez le plus quand on parle d'ordinateur. C'est votre clavier, et vous le savez, vous avez un clavier qu'on appelle AZERTY, parce que si vous regardez, enfin très vraisemblablement, hein, si vous regardez la première ligne de lettres que vous avez sur votre clavier, ça forme les lettres AZERTY, c'est comme ça que c'est ordonné. Les anglo-saxons ont un clavier QWERTY, ça prend en compte évidemment la fréquence d'utilisation a priori, hein, des lettres, mais il y a quand même un truc bizarre...
En fait, non.
Ah, alors, donc tu vas me corriger après, c'est très bien. Mais je termine ma mise en situation et je te laisserai rétablir la vérité. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui peut effectivement s'avérer frustrant. C'est qu'il y a quand même un paquet de trucs en typographie française qui sont pas naturel, pas intuitif et qu'on n'arrive pas à intégrer facilement et même au point que je pense il y a des fautes qui s'installent. Par exemple, quand on veut faire une lettre majuscule avec un accent, il faut quand même savoir jongler les petits raccourcis ou les petites manières avec les systèmes d'exploitation de les intégrer. Par exemple, commencer une phrase par un C majuscule C dit bon courage, mais ce n'est qu'un exemple qui montre que les claviers d'aujourd'hui AZERTY sont peut-être pas hyper adaptés pour le respect de la langue française. Et moi, j'avoue que ça peut être une frustration à titre perso. Il y a des propositions qui visent à amener et à faire évoluer notamment une grande enquête, une grande enquête publique de l'AFNOR, qui est une société de certification, qui propose justement une solution, voire même peut-être plusieurs solutions, des alternatives, et vous pouvez aller vous-même contribuer. Alors attention, hein, c'est pas simple, c'est un document de plus de 50 pages qui est pas forcément des plus fun à lire, mais vous pouvez aller sur le site de l'AFNOR et aller répondre à l'enquête en ligne, et puis peut-être donner votre avis, et peut-être que la norme demain va évoluer vers une proposition qui sera sensiblement différente pour notre plus grande joie des respects des règles de typographie française. Guillaume, un point d'historique alors, parce que moi j'avais toujours eu en tête le fait que c'était lié à la fréquence d'utilisation des touches. Alors en même temps, je trouvais ça un peu chelou parce que le ALZ à côté, ça me paraissait bizarre. Qu'en est-il ?
Non, mais ça n'a strictement aucun rapport en réalité. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que dernièrement, si tu veux, la légende veut que ça vienne des premières machines à écrire et que si tu tapais trop vite dessus, elles s'emmêlaient les pinceaux et que du coup.
Ah oui, j'avais entendu ça.
Ralentir un petit peu les. Voilà. Bon, il semblerait que ce soit pas vrai en fait. Voilà, donc je sais pas exactement si c'est vrai ou pas. Toujours est-il que on peut unanimement dire que tous les claviers du monde sont juste pourris. C'est complètement absurde.
Ils sont un peu moins pourris, mais
les claviers AZERTY sont encore plus merdiques que tous les autres.
C'est vrai.
Et de loin, quoi. Moi, je comprends pas comment depuis 40 ans on utilise des trucs aussi dégueulasses que les claviers AZERTY, ouais, et QWERTY. Alors le clavier QWERTY, déjà c'est n'importe quoi, parce que l'ordre des lettres c'est n'importe quoi. Personne au monde ne sait avec certitude pourquoi
si,
c'est cet
endroit. Moi je sais, c'est en fait le mec qui a inventé. Non, c'est le mec qui a inventé la répartition des lettres. Il était bourré, il a tout renversé, il a la flemme de tout ranger, il a validé le truc comme ça.
Écoute, moi je pense c'est une thèse qui en vaut bien d'autres, très honnêtement. C'est une thèse, personne ne sait. Cette histoire de typographie, de machine à écrire, c'est même pas complètement clair. Et alors l'AZERTY, je crois que c'est le pire de tous parce que c'est différent du QWERTY. Ça rajoute les accents, évidemment, on ne sait pas pourquoi déjà. Pourquoi il y a un au lieu d'un Q, ça n'a aucun rapport. Et ça, c'est complètement débile, on change l'ordre des lettres pour se faire plaisir, mais on rajoute les accents, parce que, bah oui, il y a des accents dans notre belle langue, mais on les rajoute de manière tellement foireuse que encore aujourd'hui, je sais pas comment faire une majuscule avec un accent.
Moi, sur macOS, je sais, mais bon, pardon. Ouais.
C'est juste n'importe quoi. Et je comprends pas comment on utilise cette merde depuis aussi longtemps sans avoir l'idée de changer pour un truc un peu plus.
Moi, je suis en QWERTY.
Ah, t'es en QWERTY, toi ?
Mais le QWERTY, c'est mieux. Ah, mais le QWERTY,
alors,
c'est
moi,
mieux.
Moi, je suis en QWERTY depuis au moins une vingtaine d'années. Quand tu fais de la programmation, l'AZERTY, t'as juste envie de tuer un chaton tous les jours. C'est une putain d'horreur quand tu fais de la programmation d'avoir un clavier AZERTY. Je comprends pas d'ailleurs que des mecs continuent à coder avec des AZERTY. Le QWERTY a ses défauts, mais au niveau du boulot, ça me rend quand même pas mal de service.
Et tu sais quoi, ce qui est le plus beau, c'est que même si tu prends un QWERTY, tu écris en français de manière plus logique que sur un AZERTY, parce que il suffit de choisir le QWERTY, la version QWERTY internationale dans Windows, et tu fais des accents sur un clavier QWERTY.
Ouais.
Et en fait, c'est assez logique, il suffit de faire l'accent puis la lettre. Tu vois, et finalement, c'est même presque plus simple que d'utiliser un clavier AZERTY qui provient de la merde jamais.
Ah, pour les accents, moi, c'est assez formidable. Et alors, apparemment, alors ça, tiens, il faudra demander à Matt, il pourra peut-être nous le confirmer. Je crois qu'il existe un QWERTY québécois où tu as le QWERTY et les accents. Donc, le meilleur des deux mondes.
Il y a des QWERTY accentués. D'ailleurs, je pense qu'il y a des, je sais même pas si en Suisse ou, tu vois, dans les autres pays européens, c'est pas clair qu'ils aient pas des QWERTY ou des QWERTZ.
Ouais, c'est
pas
possible.
Avec des accents bizarres, des trucs comme ça, quoi. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que l'AZERTY est donc une sombre merde. Et, bah, qu'il crève, je vais reprendre deux fois des moules.
vous savez d'où vient le fait qu'on parle de uppercase et lowercase, ou en gros badcase ou hautcase, je sais plus, grandcase, bref. Non, j'ai envie de faire mon malin pour une fois que je sais quelque chose. En fait, à l'époque, les typographes, ils avaient réparti les petites lettres en métal dans des trucs façon valise avec des petites cases. Et en gros, quand on ouvrait la valise, en gros, il y avait les cases du haut, c'était les majuscules, et les cases du bas, c'était les minuscules. Donc, quand on dit uppercase et lowercase, c'était les casiers du haut pour les majuscules et les casiers du bas pour minuscules. C'est pas beau, ça ?
Alors, dites-nous si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai.
Ah, ça, pour le coup, c'est vrai. C'est le seul truc qui est vrai dans tout ce que je peux raconter. Bon, allez, on enchaîne avec Andromeda.
C'est ça aussi, le café et la culture. Ah,
mais oui, il en faut aussi. Un petit mot sur Andromeda. Alors, je ne sais pas s'il y aura grand-chose à préciser et si vous voulez réagir ou pas, vous ferez ce que vous voudrez. Mais en tout cas, une confirmation d'Andromeda qui est cette espèce de volonté de Google, pardon, de proposer une fusion de Chrome OS au sein d'Android qui définitivement enterré, alors a priori plus au profit d'objectifs tels que Fuchsia, dont on a déjà parlé. Donc voilà, juste pour vous dire qu'a priori Andromeda, on ne devrait plus en entendre parler. Mais par contre, ceux qui aimaient bien les Chevaliers du Zodiac aimaient bien Andromeda. Non, bon, je vais trop loin.
Il est bien.
Un petit mot sur les commentaires des photos Instagram de Britney Spears qui, vous ne vous en doutiez pas, abrite peut-être des choses pas très 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 chouettes. C'est un article hyper intéressant que vous retrouverez dans les notes de l'émission d'une info qui a fait un petit peu le tour du web il y a de ça quelques jours maintenant, et on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans Tech Café, donc je voulais le relayer. L'idée c'est de se baser sur le mode de fonctionnement d'un malware qui peut récupérer des données de la part des pirates qui sont derrière le malware, et on parle toujours d'un command and control, donc rien à voir avec le jeu vidéo qui ressemblait à quelques lettres près. Voilà, mais c'est le CSC, et en gros c'est l'espèce de centrale du malware. C'est un petit peu là où vont transiter certaines informations clés pour dire où sont stockées les données, etc., sans trop rentrer dans les détails. Et ça a été démontré pour un groupe de hackers, donc le groupe Turla, que je prononce peut-être pas bien, vous m'en voudrez pas, j'espère. Et en gros, la mécanique, c'est que ils ont des méthodes pour encoder et décoder des commentaires de réseaux sociaux. Et en l'occurrence, c'est particulièrement drôle de voir qu'ils se sont basés pour ce malware-là sur les commentaires des photos et des vidéos Instagram de Britney Spears. Et il y a des commentaires qui sont assez anodins, quoique, qui semble soit écrit par un mec un peu chaudard mais un peu bourré, et on a l'impression que bon, en gros il est chaud quoi, et finalement en déchiffrant le message et en interprétant une clé qui est utilisée par convention par les pirates, on se rend compte que ça pointe vers une URL de redirection de type bit.ly, et évidemment derrière il y a un espace, par exemple un espace de stockage. J'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça particulièrement drôle, et on soupçonne pas tout ce qui peut circuler comme ça sur les environnements, et c'est hyper intéressant de voir qu'ils utilisent un truc qui a autant pignon sur rue qu'Instagram, et c'est rigolo de voir qu'il y a énormément de choses qu'on peut voir passer en commentaire sur les réseaux sociaux, qu'on comprend pas trop ce que ça veut dire, et que parfois il y a des choses comme ça qui peuvent se cacher derrière. C'est aussi rigolo qu'effrayant finalement. Un petit mot aussi pour Google qui fait des bonnes actions. Vous réagissez comme vous voulez, Tom et Guillaume bien entendu, mais qui a lancé une plateforme malheureusement anglophone. J'aimerais beaucoup que ce soit traduit pour pouvoir l'envoyer à mes petits neveux et nièces, mais qui apprend tout simplement aux enfants à être un petit peu vigilants par rapport à des comportements déviants sur le web, que ce soit du hacking ou plus simplement, même si ça a beaucoup de portée, les trolls. Et c'est intéressant de voir qu'on va peut-être essayer de lutter contre les fake news au travers, certes, d'algorithmes, certes, d'évolutions technologiques, mais peut-être on se rend compte que ça peut être intéressant d'apporter un peu de pédagogie. Et c'est intéressant de voir que Google prend la parole là-dessus et propose une plateforme destinée à la base aux enfants pour apporter un peu de pédagogie. Et également un jeu vidéo que j'ai testé qui, au-delà de la prouesse technique, parce qu'il est quand même très beau et il fonctionne sur navigateur et il est vraiment assez chouette pour un jeu sur navigateur. On fait vraiment des trucs complètement dingues. Le côté ludique et pédagogique est quand même assez limité, je trouve. Mais en tout cas, dans l'intention, j'ai trouvé ça assez sympa. Et j'oserais même dire que peut-être que ça pourrait ne pas intéresser que les enfants. Et peut-être que vous avez des connaissances à qui vous pourriez envoyer ces liens-là pour leur apporter un peu de pédagogie sur le web. Mai 2017, un nouvel Amiga vient de sortir, Guillaume.
Ouais, c'est pas une blague. Hein. Le Aeon Amiga
après X-Mil le Nokia 3310
vient de sortir. C'est un truc de fou furieux. Et alors, en plus, c'est un truc qui est tellement exotique. Le CPU, c'est un dual core Freescale à 2 GHz et demi. Et le pire, c'est qu'ils font ça bien. Hein. Il y a même une puce qui est complètement inconnue, qui s'appelle Xena. C'est une puce 16
c'est
coeurs.
C'est pas la grosse. C'est pas la grosse avec l'épée, là?
C'est pas Xena. Oh, ouais, non, c'est pas Xena, c'est pas ça, là. En même temps, elle est assez fat, un petit peu, parce que c'est 16 coeurs, 32 bits à 500 MHz, que tu dois, c'est un coprocesseur, que tu dois programmer de manière complètement, enfin, à la main, quoi, à la mimine. Écoute, j'ai pas compris. $1,500, un Amiga sous Amiga OS 4. Ouais. Compatible avec tous les logiciels Amiga de l'époque. Ouais. Et tous ceux que tu pourras créer toi-même, parce que je sais pas s'il y en a des myriades non plus qui sortent sur Amiga. Et voilà. Donc c'est comme si, c'était, voilà, ce truc sort d'un univers parallèle où l'Amiga n'est pas mort, tu vois, il n'a pas été supplanté par le PC. Si Commodore était pas mort, bah peut-être que, voilà, on aurait ça aujourd'hui. C'est rigolo, surtout si vous avez eu un Amiga. Bah écoutez, allez voir ça et cassez votre tirelire le cas échéant. C'est vraiment incroyable.
Ouais, mais c'est moins joli que les Amiga de l'époque.
Bah relativement peut-être, je sais pas.
Nostalgie quand tu nous tiens. On termine le tour de piste dans bref avec le carnet de santé de demain, juste pour dire qu'il y a une initiative de la part d'Apple, au-delà de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, de proposer quelque chose d'uniformisé. Ah, attention, hein, c'est très US tout ça, mais pourquoi pas sur d'autres portées internationales, de manière unifiée, uniformisée, en tout cas sur iPhone, d'un point de vue dossier médical. C'est Guillaume Promet qu'il faudrait solliciter sur le sujet pour avoir un petit peu son avis sur la chose. Il y a des travaux à ce niveau-là, et au-delà de la news, et au-delà de la tentative d'Apple de se positionner une fois de plus sur ce genre de choses, bon, bien sûr, ça interroge sur le fait que dans quelle mesure est-ce que d'autres acteurs de type Google ou même d'autres acteurs plus confidentiels pourraient plus participer à ces initiatives-là pour pas laisser la main mise à une entité comme Apple sur la gestion de la santé. C'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui en France, je pense qu'il y a des initiatives, mais il n'y a rien de concret encore, on a encore droit à des carnets de santé papier. Si vous avez, comme moi, des enfants qui sont à l'âge d'avoir des otites, des rhumes et des cochonneries comme ça et des vaccins à gérer, on gère encore ça sur des carnets papier, ce qui me désole, et j'ai effectivement hâte de voir les initiatives des GAFA sur ce sujet-là. J'ai hâte de voir ça. Ça clôt la tournée des En Bref, et on va clore Tech Café en abordant la rubrique que vous attendez peut-être tous, la rubrique bonus, dans laquelle on vous livre nos coups de cœur, nos coups de gueule ou nos centres d'intérêt du moment. Ça peut sortir un peu de la tech ou pas. Et on va commencer par toi, Tom. Qu'est-ce que tu nous as amené dans ta besace des bonus?
Je vais commencer par le coup de gueule.
Allez.
J'en ai mal, je commence à en avoir ras la casquette des Social Justice Warriors. J'en peux plus. Et vous savez pourquoi? Ils ont donc montré Super Mario Odyssey il y a 2 jours, et il y a des gens qui pensent que c'est un jeu raciste parce que Mario est habillé à un moment donné en mexicain. Et les gens s'en plaignent. Enfin... Et c'est pas un cas isolé, je veux dire, on peut plus rien faire, rien dire. Ça veut dire que si t'es pas un peu plus bronzé et que tu parles pas comme ça avec une moustache, tu peux pas avoir un sombrero ni un poncho. Ça devient complètement fou. Et on parle d'un plombier italien presque muet créé par des Japonais. Et il y a un problème, les mecs. Donc j'en peux plus, quoi. Internet ne devient plus que ça, petit à petit. Tu ne peux plus rien dire parce que tout de suite, tu es targué de sexisme, racisme ou je ne sais quoi. J'aimerais bien qu'on repense justement à notre liberté d'expression et qu'on puisse continuer à faire de l'humour sur ce qu'on veut. Et si Mario, il a envie de se déguiser, il peut se déguiser quand même. Je sais pas où on va arriver, mais ça commence à m'énerver, voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je te rejoins complètement. Il y a juste un truc, tu parles d'Internet, et t'as raison, c'est Internet. Je me rends compte que c'est la réalité aussi. Je m'explique, j'ai vraiment le sentiment que les remarques sont les mêmes dans la réalité. Et en plus de ça, et c'est ce qui est très paradoxal, il y a une forme de racisme ordinaire qui est réel, lui, et qui est de plus en plus présent. Donc c'est vrai que c'est déroutant, quoi. Et c'est le reflet, je pense, finalement.
Non, je veux dire, il y a eu le trailer, il y a eu des extraits de jeux de Far Cry 5. Il y a des mecs... habillé avec des... Non, c'est de Wolfenstein. Wolfenstein, qui est un jeu, forcément, où il y a que des nazis dedans.
Forcément.
Qui se passe en Amérique avec des mecs déguisés avec des bonnets du Ku Klux Klan. Mais là, par contre, j'ai pas vu beaucoup de réactions. Par contre, Mario, il se met un sombrero et les gens deviennent fous. Je sais pas ce qui se passe. C'est trop de soleil, trop de Facebook. Mais arrêtez, sans déconner. Relâchez-vous, allez boire un coup, arrêtez de nous faire chier.
Mais en même temps, est-ce que c'est pas une sorte de Gamergate à l'envers, quoi ? C'est-à-dire,
est-ce
que c'est pas une frange comme ça excessive, mais dans l'autre côté, quoi, en réalité, tu vois ?
Tous les extrêmes sont effrayants, mais là.
mais je crois que c'est juste ça, quoi. C'est-à-dire, tu vois, enfin, évidemment, si tu veux lutter contre le sexisme sur Internet, le racisme sur Internet, bien sûr, mais après, il faut pas juste être con, quoi. Et taper de manière indifférenciée sur tout et n'importe quoi parce qu'on a l'impression d'avoir vu passer un éclair de racisme, c'est complètement stupide.
On est
c'est vrai pour le sexisme aussi d'ailleurs, très honnêtement. Moi j'avais rien contre, je sais plus comment elle s'appelle, cette nana qui faisait les trucs, les tropes en videogame. Il y avait de la pertinence dans certaines de ses interventions, mais j'ai toujours trouvé, si tu veux, que c'était excessif et surtout que c'était orienté pas vraiment vers dans le bon truc. Enfin, tu peux dire que oui, alors dans Super Mario il y a des clichés sexistes, enfin ou dans Zelda il y a des clichés sexistes parce qu'il faut sauver la princesse et que voilà, que tout, c'est pareil dans Donkey Kong et tout ça. Bon, honnêtement, je sais pas, j'avais jamais trouvé ça très pertinent parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement plus grave ailleurs.
On est d'accord.
J'avais un petit peu de mal. Donc il y a une sorte de réaction un peu épidermique comme ça au moindre truc. Et j'ai l'impression, effectivement, c'est un peu le truc à l'envers, quoi. C'est assez étrange, curieusement. Relâchez-vous, buvez frais, t'as raison.
Exactement. Ou sinon, allez jouer à mon coup de cœur. Monument Valley 2 est sorti. Ah. Allez en profiter. Vous allez passer 2-3 bonnes heures. C'est pas très long. Ça vaut quand même pas cher, hein. On va pas se le cacher. 5,50€, 5,90€ pour jouer 2h30, c'est pas énorme. C'est mieux, ça coûte moins cher que d'aller voir une merde qui par exemple, Baywatch au cinéma, qui va vous coûter 8 ou 10€, hein, pour aller voir ce genre de daube. Là, vous allez vous détendre, et à côté, en même temps, vous pouvez boire une bière.
Ouais, c'est vrai.
Pas formidable tout ça ?
Ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant.
Et vous soutenez un développeur talentueux.
D'autant que Monument Valley a été largement copié, en pas bien d'ailleurs, mais ça a été largement copié, et si vous pouvez soutenir l'original, c'est pas plus mal.
Ouais.
Guillaume, qu'est-ce que t'as amené dans ta besace de bonus, toi ?
Pas grand-chose, en fait, hein, mais c'est juste que, tu vois, les hand-spinners, il y en a partout, aujourd'hui, tu vois, tu peux pas passer sur un marché sans en voir, et moi, je marchais devant, tu vois, l'air hautain, comme ça, je haussais les épaules, ça me laissait...
Dédaigneux, un peu.
Exactement, le dédain incarné, tu vois, tu me voyais passer, c'était une image du dédain, voilà. Et puis là, je suis allé chez mon frère, et il en avait un, et je l'ai fait tourner, et j'étais mort, quoi, je l'ai fait tourner pendant 3 jours. C'était atroce. Je sais pas comment c'est possible.
Je connais cet effet.
C'est pas possible. Donc, c'est pas un bonus. C'est une alarme. Hein, je veux dire, je vous le dis surtout, ne touchez pas à un spinner. Ne faites jamais tourner un spinner. Vous en sortirez plus jamais. C'est horrible.
C'est beau, les hand spinners. C'est tellement.
T'as raison.
J'ai mon fils. Il a passé le mercredi après-midi avec un copain. Le copain, il en avait 7 des hand spinners. Truc de fou. Oh là.
Sur chaque doigt.
Punaise.
Les bonus, ça tombe bien, j'en avais absolument pas préparé, et pour autant j'en ai un quand même à vous donner, puisque depuis tout à l'heure j'ai allumé et j'ai restauré l'iPad Pro en format 10.5, et vous savez quoi, ce sera mon coup de cœur de ce soir. parce que moi qui trouvais que l'iPad Pro 12 pouces apportait vraiment une immersion de l'image, quelque chose de très confortable à la fois pour bosser, pour créer quelque chose de visuel, et même vous jouez Hearthstone sur un 12 pouces, franchement ça en jette. Eh ben, vous savez quoi? Je trouve que l'iPad 10,5 pouces garde le meilleur compromis portabilité et immersion d'écran. Cet écran est complètement bluffant. Je vais continuer à tester ça, mais franchement, je ne regrette pas d'avoir fait le switch. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Merci beaucoup pour cette émission, Guillaume et Tom. Et avant de conclure, on va rappeler où on peut vous retrouver sur Internet. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet?
On pourra me retrouver sur la tombe du clavier AZERTY en train de cracher dessus.
Et est-ce que tu feras tourner en spinner?
Malheureusement, oui.
Très bien, mais tu as bien raison. Tom, merci beaucoup de t'être joint à nous et de nous avoir apporté ton regard autour de l'Apple WWDC, évidemment autour du gaming. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Twitter, essentiellement Oxide, O-X-I-D-E.
Merci beaucoup. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou sur mon site perso guillaumevendée.me, et puis dans la famille merveilleuse des streetcasts comme on a parlé de Hand Spinner, je vous invite à aller écouter ou vous réabonner pourquoi pas au Blabla Pod qui est le streetcast de Pierre-Olivier. Il a repris le rythme de diffuser régulièrement des épisodes pour notre plus grand plaisir, et justement il a parlé du Hand Spinner, de l'histoire du Hand Spinner, de comment ça a été conçu, et il en fait une analogie dans la façon dont on gère les idées et dont on réalise parfois une entreprise derrière une idée. Je vous invite à écouter. Non, c'est plein d'intérêt, c'est plein de poésie. Allez écouter ça. Merci beaucoup de votre soutien. On rappelle, les soutiens sur Tipeee sont possibles à partir d'un euro par épisode. Merci beaucoup à Vilastien, Alain Kaiser, Pouillou, Julien Deret, ou encore Pouillou, ou encore Padgès68. Merci pour votre soutien ou pour renouveler votre soutien. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un épisode de Tech Café ou de la chronique des composants. Ciao à tous.
Ciao.